Bonsoir à tous et bienvenue pour le 4e numéro du Comic City of the Future Past. Cette émission où on regarde si c'était vraiment mieux avant. Et on se replonge 20 ans dans le passé. Nous sommes donc le mardi 24 avril 2018. 20 ans passés, ça donne le mois d'avril 98. Et pour explorer cette sombre partie de notre histoire, Mister René Bunny.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et Sam.
Ah, l'incroyable Sam. Je tiens à mon qualificatif.
Alors, l'incommensurable Sam.
C'est bien. Ouais. En plus, je suis trop nouvelle.
J'essaye de varier les plaisirs. Un petit doigt dans le cul, deux petits doigts dans le cul. Enfin, tu vois, bah, on varie, quoi.
Non.
Oui, 40 secondes d'émission, ça y est. Ça... je sais pas, peut-être un jour, j'ouvrirai en disant bit à tous. Peut-être que comme ça, il y a que comme ça que je pourrais battre le record.
Je sais pas, oui. Ou plug anal, pour commencer.
Plug anal. L'histoire des menus qui se dit, ah, je crois qu'on s'est trompé d'émission.
Où je suis tombé? C'est qui
non,
ces
non,
gens?
Non, je connais la maison, je sais comment ça se passe.
Je connais la maison.
Donc, on attend ton descriptif sexuel foncier, Benny.
Vous pouvez attendre jusqu'à la fin de l'émission, voilà. Je garderai ça pour la fin du programme.
Alors comme d'habitude, hein, on va revenir un petit peu sur tout ce qui se passait en 98 et regarder si tel l'adage, est-ce que c'était vraiment si mieux que ça avant?
Enfin en 98, au mois d'avril du coup.
Oui, au mois d'avril 98. Oui, on regarde un mois par mois. C'est une émission mensuelle. Donc bien sûr les comics évidemment, hein, qui est quand même notre raison principale
de vivre et de mourir surtout. Ça continue.
Est-ce qu'on n'est pas décédé depuis 20 ans? Eh bien, réponse tout à l'heure. On parlera bien sûr aussi de films, de ce qui se passait au cinéma, mais aussi un petit peu à la télé. Une petite partie jeux vidéo, quoique ce mois-ci, pas de jeux vidéo, rien d'intéressant, en tout cas rien de notable. Une partie manga qui sera plus fournie que d'habitude parce qu'il y avait des choses. Et puis une petite partie musique, et puis voilà. Puis on aura fait le tour, je pense. Hein. Somme toute, le programme de cette émission. Et je pense qu'on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec les comics. Et les comics VO pour commencer, avec le top... classique, le top, comme depuis qu'on a commencé cette émission, c'est-à-dire en janvier, donc depuis janvier 98, et bien les X-Men dominent, avec à la suite Spawn, puis à la suite Wolverine, qui fête son 125e anniversaire, 125e numéro, pardon, quoique, 125e anniversaire, peut-être, mais c'est surtout le 125e Wolverine, où on apprenait qu'il était marié.
Ah oui, fameux arc écrit par Chris Claremont lors d'un retour de 6 mois. Après, on lui a dit gentiment dégager, très vite.
S'il te plaît, ne touche plus jamais la franchise. Sois gentil. Et papy va jouer avec Sombra and Seven. va jouer chez DC, s'il te plaît. Ouais, donc oui, ça c'était la petite révélation, le petit trait de con. Ah là là, en fait, il était marié avec Madame Hydra.
On y croit tous. À fond.
Ouais. J'ai que de vagues souvenirs de cet arc, honnêtement, de ce truc-là. Je sais même pas quelle fut la résolution de ça.
Ben, je crois que ça a duré un petit moment, et puis au bout d'un moment, ils s'en sont servis pour, parce que c'était pour régler une espèce de dette qu'il avait envers elle et, qu'il avait accepté, oui. Alors, avait-il consommé? Je pense que oui, parce qu'on parle de Wolverine et de Madame Hydra, quand même.
Ouais, je pense qu'on a tous envie d'avoir des dettes auprès de Madame Hydra, quand même.
Oui. Surtout si c'est comme ça qu'elle
surtout
demande l'acquittement.
L'ancienne Madame Hydra, plus celle qui a le poulpe sur la tête là, mais
oui.
Parce que la nouvelle version est quand même assez crado, visuellement en tout cas. Oui. Cap qui nous dit j'ai aussi avancé en manga. Yamcha vient de mourir. C'est vrai qu'il est dans sa lecture de Dragon Ball.
Il vient de mourir. Tu veux dire sa première mort.
Pour la, quelle fois? Quelle est la? Est-ce qu'il...
Exactement. Oui.
Spoiler, Yamcha meurt tout le temps.
Oh non, Krillin.
Krillin meurt tout le temps.
C'est Krillin qui s'en mange le plus dans la gueule quand même. Il y a même des fois où parce que ça ferait vraiment pas original qu'il meure, on fait comme s'il mourait pas quoi. Je me rappelle d'un moment où il y a bon, c'est pas vraiment un spoiler, il y a Freezer qui le transperce. Tu te dis ah bah, putain, il se fait encore tuer. Et en fait non. Juste un Senzu, ça rebouche le trou et on en parle plus. Parce que c'était abusé, quoi. C'était au moins la troisième fois, donc bon.
Mais il meurt quand même juste après.
Mais du coup, t'as peut-être pas regardé. En fait, tu regardes pas du tout DBS, Benny.
pourquoi il s'infligerait ça?
Franchement, je lis la version manga, la version papier, qui est bien plus agréable et bien plus marrante. Enfin,
ouais, mais dans le papier, il n'y a pas eu ce filler. Je sais qu'il n'y a pas eu ce filler.
Ah, ouais, d'accord. Oui,
il y a
alors,
eu un filler, c'est l'épisode, je crois que ça va être le 72, 73 ou 74, un épisode comme ça.
Je suis pas allé aussi loin.
Sans déconner, faut le voir. C'est un épisode où il joue au baseball. Donc, tu sais, t'as un Roland X-Men.
Oh, Claremont.
Ah oui, t'as un Roland X-Men qui sent les pieds.
Pour écrire, c'est ça.
Mais justement, c'est Yamcha. Yamcha est un ancien baseballeur professionnel. Du coup, tout le monde fait un gros match. Alors, il y a aussi Beerus, il y a Whis. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, il y a un moment où il se fout tellement de la gueule de Yamcha. Yamcha se fait défoncer. Je crois qu'il y a genre Beerus qui balance une balle à fond les ballons et ça fait une explosion monstrueuse. Et tu vois Yamcha dans un cratère, couché sur le côté en PLS, c'est comme s'il était mort, quoi. Mais en fait, le mec est pas mort.
Ça devait être un rappel de sa première mort,
mais oui,
contre
les
soldats de Vegeta.
C'est ça. Et c'est vraiment, tu sais, la même image, sauf que là, il est en truc de baseball, mais il en ressort parce qu'il a réussi à sauver la balle et à empêcher Beerus de marquer le point. Mais c'est, enfin, franchement, c'était à mourir de rire, quoi. Ce passage est à mourir de rire. Tu vois le clin d'œil qui est.
Mais c'est vrai qu'il faisait du baseball. Je me rappelle d'un épisode ajouté à Dragon Ball Z, tout au début, avant que Vegeta et Nappa arrivent, où tu le vois jouer au baseball. En plus il réutilise l'ancienne continuité.
Ouais, c'est, non, mais, bon, c'est un épisode qui était cool, c'est vraiment, tu sais, une histoire en un, mais c'est juste après les épisodes avec Haraley qui servait à rien.
Ben oui, voilà, c'est ça, j'allais dire, j'ai entendu dire qu'il y avait même une espèce de crossover avec Haraley.
Ouais, t'as un double épisode avec Haraley et le Dr. Slump.
Mais je sais même pas d'ailleurs si ce sera pas adapté dans les comics, parce que finalement...
Non, c'est déjà passé, c'est avant le tournoi du pouvoir.
Mais ils en sont où? Ah, ils en sont au tournoi du pouvoir.
Bah, le tournoi du pouvoir, toi, normalement, t'as lu quoi? Le tome 3?
Ouais.
Donc, le tome 3, il commence déjà sa recherche de qui va participer au tournoi du pouvoir.
Ah non, pas du tout, non. Le tome 3, ça se termine à peine à l'arrivée de Black Goku, quoi.
Alors, je sais que dans les chapitres au Japon, ils sont déjà au tournoi du pouvoir, et ça, cette partie-là, ils les ont zappés, c'est des fillers, de toute façon.
Ah, d'accord.
Ouais. Donc, ça n'y sera pas, quoi. Donc, ouais, ces épisodes 70 et quelques. Ça vaut le coup d'être regardé, soit avec Haraley, sympathique sans plus, et alors qu'il y a un chat qui vient de pénétrer chez moi et qui gueule. Ah oui, c'est le copain de mon chien. Et
ton chien a fait ami avec un chat.
Ouais, c'est le chat du voisin.
C'est un traître.
C'est le chien du voisin qui vient manger dans sa gamelle.
Et ouais, c'est un traître à son espèce. Hein.
Non mais ce que je voulais dire. Du coup, je sais que ça m'a perturbé cette histoire de chat.
Mais ouais, les épisodes avec Haraley sont sympathiques et celui avec le baseball est sympa. Voilà, c'est des histoires en un qui se font rapidement. Bref, c'est. Mais ça reste dispensable, c'est du filler, hein, de toute façon. Continuons peut-être sur les sorties comics. On avait un Avengers, hein, toujours dans le top, hein, on rappelle Heroes Return, tout ça, mais surtout à la sixième place, le Superman Forever. Superman Forever, c'était un one shot qui revenait sur Superman à l'ancienne, puisque ça y est, c'est déjà enterré, le Superman Blue, Superman Red, c'est terminé, et ce one-shot, c'était justement la fin et le retour du Superman classique, avec 12 000 auteurs, 12 000 dessinateurs, on avait tout le monde, les grands de l'époque des années 90, hein, on a autant du John Bogdanov que du Louis Simonson, que du Dan Jurgens, que du John Byrne qui vient faire quelques pages, enfin, il y a vraiment tout le monde, quoi, c'est... La liste est extrêmement longue. John Byrne vient faire 4-5 pages, tu vois, mais c'est juste, voilà, c'est...
Comme quoi, ça prouve pas que les comics sont cycliques, parce que le retour aux bases, on fait ça régulièrement.
C'est ça. À noter dans le top, parce que bon, rien de changement, enfin, pas gros changement, hein, DC, du coup, avec son Superman Forever, classe 2 titres dans le top 10. C'est bien.
Parce qu'il y a JLA aussi.
Il y a JLA, exactement.
Mais après ça, faut dire, on était en plein dans Heroes Return à ce moment-là, donc, un peu normal.
Faudra attendre la place 17, hein, pour avoir un autre titre d'essai qui est GLA Year One. Et puis après, on tombera à la 32e place pour le Action Comics. Donc c'est dire que DC ne vendait pas à l'époque, hein.
Oui, c'est qu'ils vendaient pas, mais il y avait une plus forte concurrence.
Franchement, de la vue d'un lecteur de comics en France à l'époque, DC, ça paraissait vraiment has-been, quoi.
Ouais, c'était moins sexy.
C'est...
Mais dans tous les termes, c'est-à-dire autant au terme de scénario que visuellement surtout. Il y avait une espèce de... C'était un old school et pas dans le bon sens.
J'avais l'impression que c'était vraiment pour les lecteurs, les vieux lecteurs, entre guillemets, et que, si on était... si on cherchait des scénarios un peu plus recherchés, un peu plus compliqués, fallait plutôt aller du côté de chez Marvel. Ce qui n'était pas forcément
ce
vrai.
Ce qui n'était pas vrai, bien sûr, mais c'est vrai que c'est le, mais, c'est ce qu'on en a ressenti, ouais.
Mais voilà, quoi. Moi, j'avais l'impression que chez DC, en plus, il n'y avait pas vraiment de continuité plus que ça entre les
ça c'est parce que c'était notre œil de lecteur français où d'un côté
ouais,
on avait
ça.
Que des vieux tout ce qu'on trouvait c'était des vieux Harry Dit Artima avec
des
Superman
trucs, ouais.
etc.
et puis même le peu de par exemple le peu de Batman qu'on a eu en 96 à l'époque de Batman Légende je crois que ça s'appelait c'était des épisodes justement qui étaient plus ou moins des one shot quoi c'est enfin tu vois c'était pas des grosses sagas comme on avait le droit avec Marvel avec l'ère d'Apocalypse Onslaught etc
alors qu'il y en avait hein c'est juste qu'elles étaient pas publiées en France quoi
ouais voilà c'est ça mais du coup l'impression que ça donnait c'était que bon bah voilà c'était un peu pour prendre un exemple à la con comme les Simpsons quoi c'est des épisodes individuels ou alors en quelques parties, en deux trois parties, et puis basta fini quoi.
C'est con qu'ils aient raté le coche, hein, parce que pourtant avec la diffusion de Batman à la télé, et puis ensuite de la série Superman mine de rien, il y avait quand même de quoi essayer d'implanter la chose.
De toute façon, je pense que s'ils avaient vraiment essayé, ça aurait pris. Hein. Ouais. Surtout que dans les années 90, sur Batman et Superman, bah ne serait-ce que sur Batman, on a eu Nightfall. Si on avait, de toute façon, on aurait eu du retard avec la publication française, donc ils auraient même pu publier Nightfall dans la deuxième partie des années 90 en français, quoi, en VF. Commencer avec ça, c'est vraiment la grosse saga, quoi. Ils en avaient pour longtemps. Et puis après, il y avait Contagion, Legacy. Enfin, il y avait énormément finalement d'events qui jusqu'à quasiment comment ça s'appelle ? J'allais dire Apocalypse. La catastrophe là, Gotham qui s'écroule.
Cataclysme.
Cataclysme, voilà. Cataclysme et puis No Man's Land. Donc enfin, le chemin était tout tracé vraiment pour tenir le lecteur durant toutes les années 90 sur Batman et Superman pareil quoi. Il y a la mort, la résurrection, et puis après bah justement le Superman Blue et le Superman Red, c'est ça ?
Ouais.
Oui, c'était un peu n'importe quoi.
Oui, enfin, voilà. Enfin, il y avait tous ces délires autour de Superman, mais il y avait largement du coup matière à tenir le lecteur pour des mois et des mois et des mois de lecture quoi. Enfin,
bien sûr. Mais on vous dira ce qu'on veut, mais Panini, malgré tout, a bien, bien implanté la gamme DC, hein, mine de rien.
Ouais, ça leur a pris du temps, quand même, hein.
Ça leur a pris du temps, mais ils ont fini quand même par réussir à l'implanter et
moi,
à intéresser les gens. Parce que Urban, finalement, quand Urban est arrivé et qu'ils ont repris la licence DC, c'est parce qu'il y avait déjà un public, hein.
En fait, ce qui s'est passé avec Panini, bon, alors, on sort un petit peu du sujet de 98, mais ce qui s'est passé avec Panini, c'est qu'il y a eu Batman Begins. Ils ont essayé de relancer DC en VF avec 3 mensuels. Et moi j'aimais beaucoup ces mensuels là, ils étaient cool. Il y avait vraiment de bonnes séries mais ça a pas eu énormément de succès. Et en fait, c'est à partir du moment en 2008 où il y a Dark Knight The Dark Knight au cinéma que là vraiment Batman explose et il y a un regain d'intérêt pour les personnages de DC Comics.
Batman explose, j'ai pas lu cette histoire moi. C'est quoi ?
Et voilà. par Tom King, il s'expose le dos tout seul
sur l'avion.
Voilà.
Qui sait, peut-être que Tom King nous apprendra un jour qu'en fait il était mort dans le crash de l'avion, tout ça n'était qu'un rêve.
Oh, mais ce serait franchement, je dirais dès demain. Ouais, ouais. Ce serait
du génie.
Très bien.
Du génie.
Non mais qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, et à partir de là, DC a vraiment explosé en France en termes de popularité. Je me rappelle que d'un seul coup les mensuels Batman ça se vendait super bien. Et là-dessus, quelques années après, Urban a repris quoi. Enfin, Dargo a repris. Et voilà quoi. Mais ouais, c'est surtout venu de The Dark Knight quoi. Je crois cette espèce de passion
oui,
pour DC Comics en France.
Et puis à partir du moment où effectivement on a eu une convergence, on va dire de.
Attention là, attention. DC, convergence, il y a des mots qu'il faut éviter. Hein.
D'accord. Disons que le climat était
propice, ouais.
Favorable.
Ouais, et puis on avait un regain d'intérêt pour les comics en général, peut-être aussi un certain désintérêt pour certains de chez Marvel, qui leur a permis de pouvoir implanter cette gamme.
Et justement, alors, équilibriste, pour revenir au sujet 98, est-ce que ça aurait fonctionné à l'époque, cette méthode? Peut-être pas, parce qu'il y avait
vu,
eu...
On l'a vu, Semik a arrêté son Batman le mois dernier, c'était le, on en a parlé dans la dernière émission, c'est le dernier numéro de Batman dans Strange, enfin de Batman, de Strange avec des séries d'essai chez Semik, parce que ouais. Ça ne fonctionnait pas.
Et faut dire que je parlais du Dark Knight qui a relancé vraiment Batman, DC en France auprès des lecteurs. Là, on est en 98. En 97, on avait eu Batman et Robin. Donc, effectivement, l'image, quand je parlais des héros DC, etc., l'image qu'on avait en France à cette époque des personnages, c'était vraiment tout pourri, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'était ça, quoi.
Ouais,
Batman.
C'était des personnages dépassés et en manque de renouvellement.
Et en plus, le dessin animé qui était bien, le dessin animé Warner, bah ça y est, il avait quelques années au compteur. Là, on était plus dans la période où c'était.
Ah, on était la période Justice League et Superman, quoi.
Mmh. Ouais, mais ça a quand même pas le même impact, quoi.
Parce que moins bien diffusé en France aussi, hein.
Ouais, aussi.
Ouais, il fallait s'accrocher pour arriver à suivre. Moi, je sais que.
Faut penser que la série animée Batman a quand même eu une diffusion en soirée.
Oui, ça avait commencé.
Bah, disons qu'on aurait eu les titres Batman à la fin des années 80, début des années 90, entre le premier film, les animés et le reste. Là, ça aurait décollé.
Ouais.
Parce que ça correspond aux États-Unis au début d'une grosse vague de Batmania qui a été vraiment énorme.
Continuons peut-être sur le top pour pas perdre trop de temps parce qu'on a encore pas mal de choses à traiter malheureusement heureusement finalement parce que finalement on le dira jamais assez mais le mois d'avril il y en aura peut-être d'autres mois comme ça chargés dans l'année mais je crois que ça va faire partie d'un des mois les plus chargés. Il y avait la sortie d'un gros titre aux États-Unis ce mois-là. C'était le numéro 1 de Battle Chasers.
Oui. Juste après le Danger Girls de Joey Campbell, c'était le Battle Chaser de Joey Madureira qui débarquait. Alors, on en parlait hors antenne, les ventes n'ont pas l'air si extraordinaires que ça, puisque c'est 78 000 exemplaires. Sauf que quand on descend un peu plus bas, on se rend compte qu'il y a une version, une couverture variante, qu'ils ont au grand tour de environ 20 000 exemplaires. Donc en gros, le premier épisode tourné à quasiment 100 000.
T'as une Chromium à 32 000,
Puis pour un truc qui est pas du tout une licence, enfin moi, en tout cas à l'époque, j'étais totalement passé à côté de Battle Chaser, je ne connaissais pas. Ah oui, non, mais totalement. Bah de toute façon à l'époque, j'étais pas expert en comics, comme je le suis maintenant. Non, mais enfin j'avais, ben, voilà quoi, je connaissais ce que je voyais dans les maisons de la presse. Et Battle Chaser,
Bah oui, avec cette magnifique couverture avec Rod Monica sur le devant.
Ouais, mais je vois la couverture maintenant.
Oui.
Mais franchement, à l'époque, je t'ai complètement passé à côté. Je ne sais pas du tout si c'est. Alors donc, tu me dis, c'est sorti en maison de la presse en France.
Oui. Battle Chaser. Oui, c'est sorti par Semik. Ouais.
Parce que autant Danger Girls, alors on en a parlé la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus. Bah oui, ça m'avait fait de l'œil. Autant là, non.
C'est con, mais moi j'y suis pas allé. Pourquoi? Parce que Joe Madd, quoi.
Oh.
Non, mais j'aime pas Joe Madd.
J'ai
jamais accroché
plus,
Joe Madd.
Enfin,
bon, c'est donc la fin de cette émission. Ce fut un plaisir.
En fait, j'ai apprécié Joe Madd avec le temps. Enfin voilà, quand je lis les X-Men maintenant dessinés par Joe Madd, je trouve ça sympa. Mais à l'époque, c'est vrai que quand je voyais les X-Men, je me disais ah bah non, je vais pas lire des comics pour voir du manga. Tu vois, c'est la réflexion que je me faisais. Et je me disais c'est cool parce que Spider-Man, il est pas tombé dans cette mangaïsation. Voilà, c'est
oui,
vraiment.
Oui, ça dure vachement longtemps.
c'est vraiment le. C'est ce qui me dérangeait quoi avec les X-Men. C'est j'avais l'impression de voir du manga, ce qui est faux en fait, puisque maintenant quand on regarde, bon, c'est pas plus manga que ça, hein, Joe
Madd. Non, mais ça fait partie de ces auteurs qui ont importé le trait nippon dans les comics.
Disons que c'est plutôt une influence.
Oui, ouais. Voilà.
Oui. Ouais.
Mais on va se demander comment le mec, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a explosé en vol avec Battle Chasers, hein, comment le mec arrivait à tenir
comme Batman
sur tout ça quoi. Et de l'autre côté, enfin sur parce qu'il avait fait un gros run sur les X-Men, là c'était Bacalo, et c'est la partie c'est la période où Bacalo était pour moi pas intéressant perso. C'est vraiment la période là actuellement qui est publiée aux États-Unis de Uncanny X-Men où Bacalo était pour moi pas très bon quoi. Parce qu'il commençait, je sais pas, il avait ce défaut, il avait commencé à nous faire ça déjà sur Gen X. et il avait tendance à rajeunir les persos et en faire des persos qui avaient 8 ans, quoi.
Ouais, puis enfin moi j'avais vraiment du mal avec ces espèces de cases. Alors il y a pas besoin de mettre un gaufrier à la Watchmen dans toutes les pages des comics, mais
ah oui, je commence à en avoir marre de ça, moi.
Mais par contre là c'était un petit peu tout le contraire, c'est-à-dire que il y avait des cases, tu savais même pas, enfin des pages pardon, où tu savais même pas par où commencer, quoi. Ouais. Et je trouve ça enfin surtout à l'époque, je trouvais ça désagréable, j'étais pas habitué à ça.
Le storytelling doit être fluide, tu dois même pas t'en rendre compte en fait.
C'est ça. C'est ça. Et là, quand je voyais Bacalo, je me disais, mais dans quel sens
par où
je dois lire la page, quoi, ou la double page?
Oui, la construction des pages, j'ai pas fait deux uns chez lui, mais faut s'y faire.
Puis il foutait des petites crottes partout, je ne sais pas pourquoi, des espèces de petits morceaux de, je ne sais pas, de matière qui se baladaient comme ça sur les pages.
Dans les petits trucs à savoir quand même sur Battle Chasers, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que mine de rien la série n'a pas été longue, hein, 8-10 épisodes je crois, 11 peut-être.
Oui c'est ça, 8 épisodes. Bah 8 en fait épisodes. Elle a commencé chez Wildstorm sous le label Cliffhanger, ouais. Et puis en fait au bout de cet épisode, Joey Mad est passé chez Image, et il a sorti un 8e épisode qui était un épisode double, et puis il s'est barré.
Ouais.
Voilà, et il est jamais revenu.
Mais la licence Battle Chasers existe encore, puisque l'année dernière est sorti un jeu vidéo Battle Chasers.
Oui, bien sûr. Ça me fait marrer quand il dit qu'il voulait faire des jeux vidéo parce que c'était plus intéressant. Sauf qu'il a sorti un jeu vidéo en 20 ans, alors que combien on aurait pu sortir de
Techniquement, Darksiders. Il a travaillé sur Darksiders aussi, où il a fait tous les designs pour Darksiders 1 et 2. Mais là, Battle Chasers, c'est vrai qu'il a amené enfin son produit en jeu vidéo, ce qu'il voulait faire depuis le départ. Mais c'est... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de sortir 20 ans après la sortie du numéro 1, quasiment, quoi. Enfin, qui se souvient encore Battle Chasers, quoi? Il y a beaucoup de gens qui ont acheté le jeu Battle Chasers, mais sans savoir que c'était à la base un comics, quoi.
Oui. Ouais.
Nous, on s'en souvient parce qu'on a souffert.
Mais c'est le contraire de Danger Girl, enfin de G. Scott Campbell, qui lui avait commencé dans le design de perso de jeux vidéo et qui ensuite s'était mis aux comics en se disant que c'était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relax, qui pouvait se faire beaucoup plus de thunes en
travaillant des couvertures. Moins,
quoi. Bah, en faisant des couvertures et des
Mais c'est ça.
Et des merdes des commissions, voilà.
Entrez.
Je cherchais le mot des commissions.
Parce que déposez votre argent sur la table, vous aurez votre couverture d'ici 6 mois à 1 an.
On avait Cap à Cap sur le chat tout à l'heure qui nous disait Justice League a bien été diffusé sur France 3, l'émission F3X, oui, avec Batman Beyond et X-Men Evolution. Ouais,
je confirme.
C'était un peu le bordel, hein, la façon dont ils ont diffusé ça.
C'est le matin, et puis c'était, il y avait des week-ends où ça y était, des week-ends où ça y était pas. Je dis, moi, j'en chiais, hein, à chaque fois pour.
Puis voilà, comme je disais,
alors
c'est
que
très
Justice League
rare.
En plus avait une histoire, une storyline, une vraie storyline, quoi.
Ah oui, et puis c'était, parfois, l'un des twists que j'avais vraiment adoré, c'était en fin de saison 3 ou 4.
Oh, le
et
spoiler.
Ouais, c'est ouais, sûr. Non, mais qui s'appuyait sur une intrigue qui remontait à l'animé Superman.
Ça, c'est
ah oui, d'accord.
C'était énorme.
Non, mais les mecs avaient construit leur truc, quoi. C'est ça qui était...
Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Batman? Néanmoins, aucune des autres animés Warner n'a eu l'honneur, entre guillemets, d'être diffusé après le journal je crois que c'était sur
ouais, mais
France
c'était,
3.
Ouais, mais à cette époque-là, c'était déjà fini, hein, les dessins animés à 20h30, c'était terminé. Hein.
Ouais.
Et, oui. Oui, de toute façon, ouais, bien sûr, bah de toute façon après il y a eu le satellite, etc., ouais, etc.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour le top grosso modo, il y a rien de vraiment plus intéressant et de notable dans le top de ce mois d'avril 98.
Non.
Si ce n'est que et ça c'est important, et là on peut dire merci encore une fois à Comicron, hein, qui tient le listing de toutes les ventes depuis des années, c'est que mine de rien entre avril 97 et avril 98, 25% de chute, 25% de marché, ouais, de perte
ah,
de
marché.
Ah
mais ça a été violent, hein, 97
incroyable, hein. Avec, c'est vendu 25% de comics en moins que en avril 97, et c'est une énorme chute, un quart des ventes en moins.
Bah, il faut voir aussi combien de comic shops ont fermé entre mars et avril. Parce que c'était ça, en fait, qui les a plombés, c'est que tout d'un coup, tout le monde se cassait la gueule et ils pouvaient rien y faire.
La fin de l'année 98 va remonter un peu les choses. Il y a des choses qui arriveront, on en parlera dans d'autres émissions. Là, par exemple, on a Daredevil qui se classe, je sais plus, je l'ai vu passer tout à l'heure, là, qui entame son dernier arc.
Ouais, avant la reprise de Arkham Knight.
Avant la reprise, voilà, qui elle relancera les ventes. Pareil, hein, le Superman Forever, c'est vrai qu'il est classé 6e avec 113 000 ventes, mais c'est l'édition collector, parce que si on cherche un peu plus loin dans le top, qui était à 5,95 d'ailleurs, si on cherche un peu plus loin dans le top, t'as l'édition simple qui a quand même vendu presque 30 000. Donc, finalement, le Superman Forever, c'est la meilleure vente du mois, quoi. L'édition simple qui était à 1$ de moins. Ah, qui avait pas une chromium cover, mais cool.
Bon, sachant quand même que le Superman de Dan Jurgens c'est quoi, arrivait quand même en fin de course, de manière assez prononcée.
Ouais, mais tu vois, le retour à ce vieux Superman, à l'ancienne et plus ce Superman Blue-Red, bah, les gens ont acheté, quoi. Les gens ont acheté. Preuve en est que le truc fait, bah, en fait, techniquement, si tu cumules les deux, il égale, sinon il dépasse les X-Men, quoi.
Il était en avance, quoi. Avant le Blu-ray, il avait le Blu-ray.
du côté de la France, eh bien, les numéros 2 des Heroes Reborn.
18. Allez, bleu.
Le Iron Man 2, le Fantastic Four 2. Hein, donc, bah, pareil, deuxième numéro de ce renouveau des titres dans un monde plus ou moins parallèle où les aventures reprennent à zéro dans un temps moderne, discontinué de tout le reste de la réalité. Pas pour longtemps. Le deuxième numéro de Marvel Select également sortait avec enfin le premier épisode de Thunderbolts.
Ouais. Quand même énorme sortie. Faut quand même le dire. Bon, qui durera pas très longtemps, hein, le Marvel Select. Ils ont changé la composition du mag relativement rapidement. Parce qu'il y avait pas grand chose de véritablement attractif.
Ouais, Thunderbolts, c'était la petite surprise. La petite surprise.
Ouais. Ouais.
La série.
Voilà, à part le Thunderbolt, le reste. Ouais, c'est très vite cassé. Ouais.
Bah moi, c'était un magazine que je ne prenais pas à l'époque parce que c'était trop cher, enfin trop cher.
Ça faisait un mal de poche, trop
etc.,
pour toi.
Quoi, c'est, voilà, enfin c'était trop. Mais par contre, ce qui était impressionnant, c'est qu'on entendait tout le temps parler de cette série Thunderbolts malgré tout. Comme vraiment un truc à aller voir, un truc intéressant, avec donc le twist du premier épisode, je pense qu'on peut quand même le révéler.
Oh ben on peut le révéler maintenant,
20 ans plus tard.
Dune, voilà. Dune, je pense que tout le monde le sait, et ceux qui le savent pas, bah ça a 20 ans, les gars, fallait faut le révéler avant.
En gros,
donc en fait, Captain America travaillait pour l'Hydra.
En gros, bah c'était un twist un peu comme ça, c'était que on se rendait compte que la nouvelle équipe de super-héros en ville, les Thunderbolts,
qui plus ou moins en fait était arrivée sous prétexte que bah il y a plus de héros, faut bien qu'il y ait des gens qui reprennent le flambeau des Avengers quoi.
Exactement. Et en fait, on se rend compte que c'est tous des anciens super-vilains, voire même des super-vilains tout simplement, qui essayent de se faire passer pour des super-héros. Et c'était vachement malin parce que ça jouait vachement sur l'ambiguïté de savoir si effectivement ils allaient devenir entre guillemets des super-héros ou si ils jouaient un double jeu et peut-être que d'ailleurs il y avait des membres de l'équipe qui allaient basculer d'un côté ou de l'autre.
C'est ça qui était intéressant, ouais, c'est clair.
Et voilà quoi, c'était du coup ça te vendait la série pour des tonnes de numéros à venir, ouais. Puisque t'avais vraiment...
Mais c'est une série que tu ne peux lire que si tu connais un minimum l'univers Marvel, parce que si tu connais pas l'univers Marvel et que tu débarques là, tu comprends même pas qui sont ces personnages.
Ouais.
Ouais, mais enfin... franchement, je l'ai lu à une période où je connaissais pas très bien la plupart des persos qui composent l'équipe. Et honnêtement, tu t'attaches quand même, quoi. Tu à force de lire les épisodes,
ouais, bien sûr. Mais c'est-à-dire que
voilà, quoi. Tu t'apprends à les connaître comme ça.
Moi, la première fois que j'ai lu le numéro 1, la révélation finale, je me suis dit ouais et enfin tu sais, j'avais pas compris quoi, parce que je connaissais pas bien le perso.
Ah oui, voilà, t'étais passé à côté du truc.
Voilà, ouais.
Et, ah ouais, d'accord.
Bon, par la suite, pareil, j'avais plus ou moins lu la série vraiment dans le si. C'est pas une série que je suivais beaucoup parce que pareil, Marvel Select faisait pas partie de mes priorités puisqu'après on aura la série Quasar dedans, etc. Mais bon, c'était pas non plus l'éclat total. Et bah c'est vrai que quand tu connais pas bien et une fois que tu connais un peu plus l'univers Marvel, tu fais ah putain ouais, non, c'est cool. Mais voilà, faut quand même bien connaître quoi.
Et oui, et puis c'est une série en plus qui est quand même partie pour une centaine de numéros, je crois,
à l'époque, plus, hein, tout est plus que 150, non?
Ouais, pas moins de 150.
Plus même, parce qu'après il y a eu la reprise par Jeff Parker à la fin et
ouais, elle avait changé.
On a donné 160, quelque chose comme ça.
Elle est devenue New Thunderbolts, puis elle est revenue à Thunderbolts Marvel puisqu'elle était présente pendant Secret Invasion, donc tu vois.
Donc au début, c'était qui le scénariste?
Kurt Busiek et Mark Bagley au dessin.
Mais personnellement, j'ai toujours fait la reprise par Fabien Nicieza.
Et bah ouais,
que j'ai trouvé excellente.
Eh ben écoute Sam, on se rejoint là-dessus parce que pareil, je l'ai lu ça dans alors d'autres mensuels qui n'étaient pas encore créés à l'époque par Panini, je crois, parce que Thunderbolts passe par différents mensuels.
Après ah oui, bah comme tout le monde. Hein.
Je sais plus si c'était Marvel Elite
174.
Ou.
Il y a eu 174 numéros Thunderbolts en fait. Je viens de vérifier.
Ou c'était peut-être même dans le mensuel Iron Man, je sais plus, enfin bref. Thunderbolt s'est passé dans tellement de magazines, mais effectivement, la période Nicieza bah, complexifie la série. Je me rappelle, il y a un nouveau tueur de vilains, ouais. Je sais plus comment il s'appelle, un nouveau Fool Killer, tout simplement, je crois. Mm-hmm. Et enfin, il y a plein de mystères comme ça et d'intrigues.
Et chaque épisode, il nous balançait un cliffhanger énorme et on savait jamais qui allait survivre, ce qui se passait. Enfin,
ouais.
C'est... jusqu'à l'épisode 50, franchement, ça se tient très bien.
Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il y a toute une très bonne période.
Après, il se répète un peu, je trouve.
Sans voilà. Doute. Mais enfin, j'ai lu ça il y a quand même un paquet de temps, peut-être une bonne dizaine d'années maintenant. Mais donc, j'ai découvert ça sur le tard, 10 ans après la fête. Et honnêtement, j'ai pas été déçu du voyage. Quoi.
Moi, Thunderbolts. J'aimais bien la version hélice hein, de l'équipe avec une équipe beaucoup plus sombre.
Ah oui, énorme. Oui, bon après
là, on était plus.
Mais c'était
il y a 10 ans.
Chose, hein.
C'était il y a 10 ans. C'était Secret Invasion. C'était tout ça quoi.
Ouais.
La victoire de Norman. Enfin, c'était vachement bien orchestré tout ça.
Maintenant, il fait des vidéos sur YouTube.
On avait Kappa Cap qui nous disait tout à l'heure sur le chat, j'ai écrit à Panini pour leur demander de la publier, donc les Thunderbolts. Ils m'ont répondu, l'idée a été notée. Ce à quoi, si vous voulez répondre, une manière élégante de dire non. Mais allez-y, hein, ouais. Bombardez Panini de mails demandant la publication de Thunderbolts. Ah,
je me rappelle même que pour la petite histoire, Panini avait terminé à l'époque la publication du premier volume de Thunderbolts avec une espèce de big book. Qui doit être introuvable maintenant. Voilà, enfin, c'était les épisodes avant Civil War, quoi, qui concluait le premier volume de la série.
Oui.
Et puis après, on passait aux épisodes de Ellis, qui sont très bons, mais finalement, enfin, Ellis va peut-être faire
modifier l'équipe, hein, quand même.
Ouais, mais il va peut-être faire un passage de, je sais pas, une vingtaine d'épisodes, quoi. C'est pas, il reste
12.
Pas très longtemps.
Non,
quoi.
Il a fait 12 épisodes.
Ah, 12 seulement. Ah ouais, putain. Ouais. Bon, bah voilà. Donc c'est rapide, par contre. C'est sympa. Enfin, c'est cool, mais c'est un petit plaisir, quoi, puisque c'est voilà. Ça,
là,
c'est
il commence au 110, ça y va jusqu'à Secret Invasion.
C'est ça.
Même avant.
Mais c'est habituel.
S'arrête,
hein, j'ai vu de faire
avant.
Des runs trop assez courts.
Il s'arrête avant, puisqu'après pendant Secret Invasion, c'est Christos Gage qui reprend le titre et après d'ailleurs, je crois que c'est Christos Gage qui reste sur le titre de mémoire.
Il y a Jeff Parker aussi après.
Andy Deagle qui reprend.
Ah oui, Andy Deagle.
Qui
ouais.
A fait des très bons épisodes.
Ouais, les épisodes d'Arkane, etc. Ouais.
Ouais.
Qui était bien couillu et parce qu'en fait, Bendis avait repris la formule de Ellis et voilà. Fallait recomposer l'équipe et Deagle s'en sortait très bien.
Et Jeff Parker prendra un petit peu avant Siege et amènera la série jusqu'à la fin.
Il y avait une espèce de malade mental avec une tête de Jason de Vendredi 13 dans la version de Deagle. Je sais plus comment il s'appelle. Genre, je sais pas, il y avait du X, je crois, dans son nom, peut-être. Bon, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, c'était très bon. C'était très très bon aussi. Donc ouais, bah Thunderbolts, voilà, une licence qui est vraiment à découvrir, quoi.
On avait également ce mois-ci, toujours chez Marvel France Panini, la sortie, c'est vrai que on l'avait pas mentionné le mois dernier, ça m'était sorti de la tête, la sortie du Wolverine 52 qui est passé en mensuel en fait depuis le mois dernier, depuis techniquement le mois de février. Le mois de février, ils ont commencé à le passer en mensuel, et depuis le mois de mars de 98, eh bien Cable était publié dans Wolverine. Donc ils avaient arrêté le mensuel Cable à la fin de, enfin pendant Onslaught, et Cable était passé dans Wolverine parce que je pense que les ventes n'étaient plus là et Wolverine vendait. Donc
et puis il fallait nourrir parce qu'il y avait pas assez de, parce que c'était censé être un 48 pages à l'époque.
Bah donc, ouais, puis sortir tous les deux mois alors que c'est une grosse vente, c'était con. Donc le nom de Wolverine ça vend, ils ont foutu Cable dedans qui était une série qui vendait pas en version intégrale quoi. Marketingment parlant, c'est très bon. Bah pour les gens, je suis pas sûr que Cable et Wolverine ensemble, ça leur vendait beaucoup de rêves. Moi, je sais que je l'achetais, mais voilà. On avait le mensuel X-Men numéro 15 dans lequel commençait la série Pride and Wisdom par Warren Ellis justement.
Et ouais, qui est sympathique, mais pas son meilleur, je trouve.
Voilà, bon, je le mentionne surtout parce que la mini-série sortait là-dedans puisque c'est du Warren Ellis. C'était un moyen d'aller plus loin sur ce couple.
On a plutôt de finir son run, je pense.
Ouais, aussi. Puisque Excalibur, pardon, commençait à arriver gentiment vers sa fin.
Il l'avait terminé et il n'était pas satisfait d'après ce que j'ai compris, donc il avait sorti cette mini-série, et voilà.
On avait la sortie d'un Venom, avec le partie 3 et 4 de Sinner Takes All, bon, tout le monde s'en fout, du X-Factor, 127-128, voilà, toujours avec l'équipe, la seconde équipe X-Factor, dirigée par Forge, avec Mystique, Sabertooth, enfin, que des vilains quasiment dedans. Pareil, le concept était pas mal, moi j'aimais bien. Il y a un Vok qui était passé aux ennemis, chef de la confrérie des mauvais mutants.
Ouais, ça a duré ça, là aussi, hein.
Ça a duré un peu trop longtemps, ça. Et on avait le 2099 numéro 44, dans lequel on avait le Fantastic Four 2099 numéro 4, le Spider-Man 2099 43-44 qui se rapproche dangereusement de sa fin, et surtout le début de la série X-Nation 2099, série ô combien éclair, dont tout le monde se souvient.
Ah oui, à fond. Surtout que moi, 2099, je crois que j'ai acheté seul mag. Qui était le 40, auquel j'ai quasiment rien compris. J'aurais bien voulu poursuivre, mais j'ai jamais trouvé les numéros suivants. Donc,
Ouais, c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Mm. Pourtant, il faudrait peut-être que tu lises un jour Doom 99.
Ah oui, mais un jour, je mettrai la main dessus parce que c'est du Warren Ellis qui, je pense, sur Doom a dû bien se lâcher, mais comme,
Ah oui, c'est taré.
Comme pas permis.
C'est
taré, Panini, ouais. Panini, tout ce qu'ils ont ressorti en 2099, c'était le Spider-Man, il y a quelques temps.
Oui, les 10 premiers épisodes uniquement, oui. Ils ont jamais poursuivi.
Pourquoi? Parce que Marvel les avait ressortis en TP et ils n'ont jamais fait la suite. Et donc, du coup, Panini n'a jamais fait la suite.
Oui, mais Doom 99, ça a été réédité, hein, ça.
Non, mais ils l'ont ressorti là.
Non, aux États-Unis. Aux États-Unis. Le parti Warren Ellis a été réédité il y a un moment et donc c'est dispo. Pour une réédition en VF. Mais on le verra jamais.
Oui, non, on le verra jamais, ça. Dans la maison d'en face, enfin, pendant qu'il en reste encore un peu, on avait chez Semic du Spawn, les épisodes 47 et 48. Ah, bientôt le 50! Le 50 magique, on en parlera bientôt. Le fameux 50 où le compteur de pouvoir arrive à zéro.
Et où il ne se passe rien. Surprise.
Ah, on en parlera quand il sortira. Ouais. Dans deux mois.
Non,
dans
c'est pas
mois.
Exactement ça, mais bon.
On en parlera voilà. Dans quelques mois.
Mais là, c'était quoi alors, du coup?
47-48, c'était justement, on a le compteur approché dangereusement de zéro, quoi.
Ouais,
mais c'est l'arc en enfer, ça.
C'était pas mal, c'était pas
ah,
mal.
C'était
ça.
Énorme. Ça reste mon arc préféré de Spawn.
L'arc en enfer, c'est celui, c'est juste après, quand il retourne en enfer avec son 50, quand il a plus de, quand il a plus de pouvoir.
Ouais, mais là, il y avait une bonne montée en puissance. Il renouait avec son pote.
Ouais, avec Terry, celui qui a épousé sa femme.
Qui d'ailleurs était mal en point, je crois.
Ouais. Mais c'est pour le sauver, d'ailleurs, qu'il finit d'utiliser tous ses pouvoirs.
Et c'est ça, ouais. Donc on arrive, peut-être à cet épisode, d'ailleurs, où il essaye de tenter le tout pour le tout, le 50-50, l'appel à un ami, etc. Tout combiné pour sauver son pote et il se passe un truc.
Ah là, baston contre le Violator, on a toujours, toujours Sam et Twitch qui sont à sa poursuite, comme Giostro qui commence
c'est simple.
À s'en méfier, enfin.
C'est simple. Avec Spawn à l'époque, si tu veux savoir si c'est un épisode important, faut regarder s'il y a Violator dedans. S'il y a Violator qui passe, c'est que, effectivement, pour la mythologie de Spawn, c'est un épisode qui compte, quoi. Voilà. Généralement, ça fonctionne comme ça.
Oui, et puis c'est surtout que ça se finissait sur ce petit cliffhanger, parce que je l'ai refeuillette en même temps, là, pour m'en souvenir. Ça finissait sur, alors déjà, t'avais Terry qui commençait à trouver, les preuves, là, que Spawn, finalement, c'était Hal. Il commençait à s'en rendre compte. Et surtout, à la fin, ça finissait, par un espèce de tandem, ou en tout cas, une espèce d'alliance entre Jason Wynn, qui était le fameux commanditaire du crime d'Al Simmons, celui qui l'avait tué, et le Violator. S'allier pour le faire tomber. Donc,
qui amènera jamais rien d'autre.
Hein. Ça amènera au 50, en fait. Hein.
Non, mais je veux dire, ça sera quasiment jamais de nouveau référencé dans la série. Parce que je crois qu'ensuite, il y a eu des problèmes autour du personnage de Jason Wynn et quand il est revenu, c'était pour s'en débarrasser.
Mais c'est ça qui est fou avec Spawn. Il y avait une montée en puissance vraiment jusqu'au numéro 50. Et puis à partir du numéro 50, par contre, il y a une descente. Une descente en puissance.
Non, mais il fallait qu'il redore le blason après la sortie du film. Hein.
Ah, c'était terrible. Après le 50, franchement, c'est une. Enfin, voilà quoi, c'est une pente ascendante quoi.
Le Violator. Oh là là, ce nom nous dit cap. Ah oui, mais le Violator, c'était excellent.
Violator.
Les années 90, dans toute leur puissance.
Et je crois que là, ils avaient vraiment pas modifié le nom original.
Non, c'était ce nom-là, le Violator.
Ouais. Celui qui violette les gens.
Ouais. Parce que c'est tellement subtil.
Eh oui. Et je vous encourage très fortement à aller écouter l'album d'Eisters, je ne le répéterai jamais assez, The Dark Saga, qui est complètement...
Et pour la petite histoire, Mon premier contact avec Spawn, c'était même pas avec les comics, c'était aux États-Unis. J'avais vu les figurines de McFarlane, les figurines Spawn, et je trouvais le look du Violator, enfin du clown, hein, quand il est en clown, pas quand il est transformé en monstre, quand il est en clown comme ça avec ses flingues sur le, parce que la figurine avait des espèces de canons comme ça sur les épaules.
Oui, c'était, l'époque des figurines où ils mettaient des flingues partout.
C'est ça. Et ben j'avais trouvé le personnage tellement cool que j'avais acheté la figurine et c'était vraiment mon premier contact avec Spawn. Je ne connaissais même pas la franchise, je ne savais même pas l'histoire des persos. Et j'achetais quand même des figurines de
McFarlane. McFarlane a toujours été très bon pour faire des jouets, hein.
C'est ça. C'est son fond de commerce, quoi. C'est-à-dire que le mec, clairement, te faisait acheter des figurines et quasiment après décider de, enfin, commencer à se poser et réfléchir à des histoires, pour expliquer, quelles sont ces figurines finalement.
Cap,
t'as l'impression que le processus créatif, il était fait à l'envers, quoi, chez lui.
Violator, c'est l'identité secrète de Weinstein. Bah, franchement, regarde le design de Violator en clown. On n'est pas loin.
Ouais, enfin, même en clown, il est,
il est dégueulasse.
Il est flippant, il est dégueulasse, ouais.
Chez Semic, on avait également la sortie du Titan 220 et du Nova 232, donc Titan, le mensuel Topco, et Nova, le mensuel Wildstorm, dont on parlera bientôt de la fin. Et à noter, dernier truc pour le point comics avant de passer à une autre partie, c'est le décès au mois d'avril 98 de Alex Schomburg. Alors c'est un nom qui vous dit peut-être pas grand chose, mais c'est un mec qui a dessiné beaucoup d'histoires à l'époque de Timely Comics dans les années 40, donc l'avant Marvel, où il a dessiné du Captain America, du Namor, du Human Torch, etc. Voilà, c'était c'est tout grosso modo pour la partie comics. On va passer à la partie film qui va être bien chargé, parce que putain, le mois d'avril 98, on en a bouffé du bon. Et on va commencer par le 1er avril, la petite blague, parce que c'est sorti le 1er avril en France. Il a fallu que je croise les sources, hein, parce que j'ai eu des données contradictoires, mais non, c'est bien sorti le 1er avril en France. Jackie Brown.
Quand même.
De Mr. Tarantino. Alors, j'avoue que c'est un film que je n'ai jamais vu au complet, en réalité. J'ai vu plein de bouts, et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais regardé en entier d'une seule traite.
Je crois que je l'ai vu, moi, mais ça remonte à super loin.
Il va falloir que je le voie en entier, en fait, parce que j'ai vu plein de morceaux par-ci, par-là, mais...
Il y a pas mal de longueur, je trouve, personnellement. De mémoire, c'est ce qui m'avait marqué.
Pas mal de...
De longueur.
Ah, j'avais une coupe, j'avais une petite saute, j'avais pas compris.
Une petite coupe.
On avait également... Alors, on va pas perdre autant Jackie Brown, bon, voilà, tout le monde connaît, c'est bon, c'est du Tarantino, tout le monde connaît. On va rester sur la partie américaine, on parlera de la partie France après. On avait également, le 22 avril, la sortie de Big Lebowski.
Film le culte que je n'ai personnellement toujours pas vu.
Mais alors Sam, t'as pas fait tes devoirs?
Et j'allais te
je me suis tapé Vampire à la passe.
Je sais pas pourquoi j'allais te dire encore du Tarantino, mais non, pas du tout. C'est les frères Cohen.
C'est frères Cohen. Alors, voilà. C'est la même chose, mais pas pareil.
C'est ça. Ça pourrait. Enfin, le thème pourrait être. Ça pourrait être réalisé par l'un des deux.
Putain, et sans déconner, un remake Big Lebowski, mais version Tarantino, ça pourrait donner quelque chose.
Mais ouais, ça pourrait être.
Mais non, il doit refaire Star Trek avant.
Mais n'empêche que, c'est pareil, tu vois, du coup, avec cette idée-là, tu
fais. Je suis sûr que Steve, ça te fait mouiller comme idée, hein.
Pas vraiment. Pas vraiment. Mais en même temps, tu vois, j'imagine bien un remake de Pulp Fiction fait par les frères Cohen.
Mais c'est ça,
ouais. Et je pense que ça pourrait donner quelque chose aussi, en fait.
Un espèce de.
Ouais, quelque chose d'assez hallucinant.
Ça pourrait être intéressant de voir leur version du film, quoi. Ouais, bref.
Oui, mais alors, est-ce que ça requiert de droguer avant de voir le film? Parce que je pense que ça serait nécessaire.
Ah, Big Lebowski, faut y aller. Hein. Faut voir The Dude, hein, quand même. Et Jésus, le meilleur bouleur. Enfin, celui qui joue au bowling, quoi. Je sais pas, je vois pas le titre français, le nom français de bowler. Je sais pas si on a une traduction pour ça.
Je me rappelle plus comment il.
Parce qu'un bouliste, c'est plus le mec qui joue à la pétanque, quoi. Enfin.
En tout cas, j'avais été plus séduit par ce film que par Jackie Brown, quoi.
Et on avait également dans la science-fiction bien noire, bien dark, Bienvenue à Gattaca.
Ah, film culte s'il en est. Film quasi parfait d'ailleurs.
On l'a teasé qui, hein, longtemps en plus.
Moi, 20 ans après, c'est quand même le genre de film que tu te dis. Ça a pas vieilli et ça fonctionne toujours aussi bien.
Esthétiquement, ça vieillit un peu.
Un peu.
En termes de grain de caméra, en fait, je trouve.
Oui. Ça vieillit. Bah, c'est surtout, il y a pas un budget qui est énorme. mais il n'y en avait pas besoin. C'est surtout ça qui me marque. C'est l'histoire est tellement forte au fait que c'est... Moi, je trouve que ça fonctionne très bien comme c'est.
Puis on avait quand même un putain de casting aussi dans ce film. Hein.
Ah oui.
Judd Law, Ethan Hawke et Uma Thurman. Mine de rien, c'est pas un casting de rigolo, quoi.
Non, non, vraiment. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, parce que... Ouf.
Un film réalisé par Andrew Niccol, qui a pas fait grand chose en fait. Hein,
Après, je crois que son dernier film marquant, je crois que c'était Lord of War.
Ah, il avait fait Time Out, moi que j'aime beaucoup.
Dans Lord of War, c'était le truc avec Nicolas Cage, non?
Ouais, qui est énorme comme film, que je recommande aussi parce qu'il
vend des armes.
Ouais.
Oh.
Qui est le dernier bon film de Cage d'ailleurs.
Non, tous les films de Nicolas Cage sont bons. Tous.
Franchement, le film est pas mal, mais ouais, énorme, je sais pas, enfin.
Ouais. Lequel, Bienvenue à Gattaca ou Lord
non,
of
le,
War?
Non, Lord of War. Lord of War. Ouais.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai c'est complètement déjanté.
Son film que j'aime beaucoup, c'est Time Out. Tu sais, avec Justin Timberlake, l'histoire où les mecs vivent
non,
sur
non,
du temps.
C'est du troll.
Non, le film est vraiment bon, sans déconner.
C'est vrai?
Ah oui, mais non, le film. Franchement, regardez-le, le film est bon. Si vous l'avez jamais vu,
j'étais persuadé que tu trollais.
Ah non, ce film, non, franchement, et honnêtement, moi j'ai jamais été un fan de Justin Timberlake. Quand je l'ai vu jouer dans ce film, je me suis dit putain merde, le mec s'est joué en fait. Sans déconner, le mec s'est joué.
Et peut-être qu'au fait il s'est joué et pas chanté.
Bah après, si il s'est chanté, c'est juste que c'est pas mon style quoi. Musicalement, le mec est propre.
Non mais c'était bien ton lapsus. Il s'est chanté, mais c'est pas son style.
Ben non, c'est pas mon style de prédilection.
Peut-être qu'il s'est trompé, hein.
Mais non, Justin Timberlake est un bon artiste. J'aime pas forcément ce qu'il fait parce que ça rentre pas dans mes goûts. Mais je reconnais que le mec derrière, il y a un minimum de talent. Enfin, pas qu'un minimum d'ailleurs. Il y a pas mal de talent derrière et même musicalement, il y a quelque chose. Bon après, ça me plaît pas, mais voilà. Mais vraiment, regardez, si vous avez pas vu donc In Time et en français il s'appelle Time Out. En anglais, c'est In Time.
Ah, ça valait le coup de...
Ah ouais, non, ça valait le coup de traduire.
C'est bien, ils ont tout compris, hein, dans la construction.
Si vous préférez la version québécoise, hein, le film s'appelle Entend. En version québécoise. Mais ouais, non, Time Out, c'est vraiment, le concept, c'est que chacun vit avec, ils ont une espèce de bracelet, où en fait, les mecs bossent, et, gagnent du temps. Qui est la monnaie qui sert à tout. Et ça sert à payer les cours, ça sert à payer ton loyer, ça sert... Et quand t'as plus de temps, bah tu crèves. Tout simplement. Et franchement, si vous l'avez pas vu, vraiment, je vous encourage sincèrement à le voir. Il est vraiment très bon. C'est un film que j'aime beaucoup. Bref. En tout cas, pour le mois d'avril, on avait été bien farci. Tu avais un autre film dont tu voulais nous parler, c'était un film français ou un film US, Mister Nemeny?
J'allais dire, c'était un film français justement, et on peut faire une transition, parce que t'as dit on était bien farci, et justement il y avait un film avec Bernard Farcy qui sortait. Quelle transition de merde. Puisque c'était
qui,
Taxi.
Je l'ai mis sur le conducteur, Benny, de Taxi.
Bien sûr.
Ah, oui.
Non, mais c'est pas le film dont je voulais parler, mais c'était juste pour faire une transition de merde.
Putain, mais c'est
comme
qui
tu disais,
Bernard Farcy.
Bernard Farcy, c'est... C'est le commissaire.
Oh putain, merde.
C'est le gars qui fait « Alerte générale !»
Ah mais non, je savais pas qu'il s'appelait comme ça, en fait.
Bernard Farcy. En plus, ça lui va bien, je sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, voilà, donc sortez... du coup, je me lance là-dessus.
Vas-y.
Sortez Taxi. Bon... Taxi, honnêtement, c'est pas un film qui m'aura spécialement marqué. Je l'ai pas vu. Alors, je l'ai vu une fois qu'il était sorti en VHS, en pension, voilà, pour la petite histoire. Et ma foi, j'avais bien aimé, quoi. Enfin, j'avais pas détesté, j'avais passé un bon moment, j'avais trouvé ça marrant.
Mais le film est pas désagréable, hein. C'est de la comédie d'action con à la française.
J'ai envie de dire surtout le premier, quoi, finalement.
Mais ouais, mais
parce que
oui.
Après les autres, ils jouent vachement sur la licence et y a pas grand chose de plus, quoi.
Mais voilà, on dira ce qu'on veut, mais production Luc Besson. Et mec avait fait un carton avec ça, parce que le film a pas coûté grand chose, enfin pas coûté grand chose. Il a coûté 53 millions de francs, ce qui est une somme, certes, mais on est loin des millions de dollars pour un film. Voilà. Et il a fait 6 millions d'entrées, 6 500 000.
Ouais.
Ça a été un gros succès, hein.
Et puis en plus, moi j'en entendais parler à l'époque, j'avais des potes qui me disaient ouais, Taxi c'est trop marrant, etc. Et puis ça me saoulait, enfin tu sais, c'était toujours le truc un peu à la mode, machin, ouais, enfin ça m'avait pas l'air super super drôle quoi, super fandard, etc. Et finalement, ouais, enfin j'ai été le premier surpris en le voyant, je me suis dit ah bah ouais, ouais, effectivement, ouais, c'est cool quoi comme film. Enfin voilà quoi, c'était pas.
Ouais, pas le film prise de tête et qui. Voilà, fais passer
ça,
un moment.
Ça passe. Honnêtement, c'était si tous les films français, toutes les comédies françaises, surtout dernièrement, pouvaient être comme ça, bah ce serait cool quoi. Enfin voilà, parce que finalement, c'était plutôt une réussite.
Mais c'est marrant de voir qu'en plus est sorti il y a quelques semaines Taxi 5.
Oui.
Donc tout le monde se fout.
Non mais voilà, je veux dire, 20 ans plus tard, on y est encore quoi.
Oui. Alors pas du tout avec les mêmes acteurs.
On était précurseurs en lançant, tu vois, le Comic City of the Future Past il y a 20 ans, hein. Ils nous copient. Ils ont fait le film là juste pour qu'on puisse en parler.
Il y a toujours Bernard Farcy, par contre.
Oui, je crois qu'il est toujours là.
Oui, il y est. J'ai pas vu le film, hein, mais je sais qu'il y est.
Qu'est-ce que ça veut dire? Sa BO avait fait aussi beaucoup, parce qu'à l'époque, c'est une BO où t'avais pas mal d'artistes du moment hip-hop, quoi. Mine de rien, la BO de Taxi, elle avait bien marché aussi, quoi. Puisque c'était Akhenaton qui avait fait la BO. Principal du film, t'avais sur le CD, t'avais aussi des morceaux d'IAM, etc.
Et mine de rien, il y avait un petit côté, comment dire, avec Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois, ça a pas réhabilité, mais ça a mis un coup de projecteur au nord de la France. Et là, avec Taxi, c'était un petit coup de projecteur, mine de rien, sur la ville de Marseille.
Ah bah
quoi.
Totalement, oui, c'est clair.
Et voilà, donc du coup, ça fait partie de ces films qui boostent un petit peu le tourisme dans telle ou telle région française. Et ça, on aime bien.
Et la page, la page Wikipédia nous apprend des choses monstrueuses sur ce film, genre que le tournage s'est déroulé en seulement 27 jours, mine de rien. Ce qui est assez court, hein, quand même.
Et alors, je crois qu'il y a eu un mort durant le tournage d'une cascade, mais peut-être pas sur le premier. C'était peut-être sur.
C'est plus tard, sur le 4 ou. Ouais. Le 3 ou le 4.
Ouais. Bon, après, malheureusement, même pas sur les meilleurs, quoi.
On voit que Luc Besson, qui est donc producteur, mais aussi scénariste du film, a écrit le scénario en 30 jours. Ouais, bah, on se doute bien.
Ouais, ça se voit.
On se doute bien.
Comme la plupart de ces films.
Mais surtout, c'est ce que m'a appris la page Wikipédia, je savais pas ça, et ça me fait marrer parce que le film n'aurait je pense que le film n'aurait pas marché, si ça avait été le cas. Luc Besson songeait initialement confier les deux rôles principaux à Patrick Bruel et Vincent Pérez.
Bizarrement, je pense que ça aurait moins marché.
Je pense exactement que le film aurait moins marché parce que Samy Nasseri, Frédéric Diefenthal n'étaient pas encore connus à l'époque. Et le fait d'avoir des inconnus, je pense que ça a permis que le film marche aussi.
Le plus drôle, c'est que quand t'as dit Patrick Bruel, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Patrick Timsit. C'est encore plus drôle. T'es imaginé dans un taxi. Et je pense que ça aurait fait un putain de bide, effectivement, si ça avait été Patrick Timsit.
Ça m'étonne pas. Mais donc ça, c'est sorti le 8 avril.
Ouais.
Et le 15 avril, et ben deuxième gros succès français.
Franchouillard, ouais.
Bah, Franchouillard, mais merde, moi j'aime bien ce film malgré tout.
Et ben moi aussi, ouais. Alors là, par contre, je l'ai vu au cinéma et je crois même.
Moi aussi.
Je me demande si je l'ai pas vu deux fois. Une fois avec mon père, une fois avec ma mère. Voilà.
Vous voulez pas y aller ensemble?
Parce que j'ai dû convaincre l'un ou l'autre, je sais plus dans quel ordre. Je crois que je l'ai vu en premier avec mon père, on s'est bien marré. Ma mère qui est pas trop film, comédie comme ça, qui rigole pas facilement. Je lui dis allez si viens, c'est drôle, tu verras. Et franchement, elle avait bien apprécié aussi quoi. Elle s'était bien marrée. Et ouais, le dîner de cons donc de je sais
Francis Weber.
Francis Weber, bien sûr, voilà. Mm. Qui d'ailleurs en général j'aime bien les films de Francis Weber, mais alors oui, celui-là particulièrement. Bon, généralement
la saga François Pinon quoi. Hein.
C'est ça. Oui, parce qu'il y a toujours un perso qui s'appelle
toujours,
François Pinon.
Toujours un Pinon dans ces films. Hein. François.
Qui est toujours François Pinon, ouais, qui est toujours le perso principal finalement autour duquel tourne l'intrigue. Et donc dans ce film, ce film je le remate. Régulièrement. De temps en temps,
oui, c'est
comme
le genre
ça,
de truc qui passe à la télé, tu le regardes avec plaisir, quoi.
C'est ça. Sauf le dernier quart d'heure. C'est le petit quart d'heure moral.
Bien sûr, mais bon, c'est une comédie française, on peut pas s'attendre à autre chose. Mais sans déconner, une bonne distribution, quoi. Jacques Villeray, ouais. Thierry Lhermitte, Francis Huster, Daniel Prévost, quoi.
Ouais.
Merde, ça marche, quoi. Ça marche bien.
Franchement, il y en a aucun qui est mauvais dans le film, quoi. Il y en a aucun où tu te dis, oh, putain, j'aurais bien vu quelqu'un d'autre à sa place, quoi.
Ah, ben. Francis Huster et juste le blanc quoi.
Voilà.
Juste le blanc.
C'est ça. Non mais franchement, pareil quoi. Bon petit moment face à un film français, ce qui est.
Mais ouais, comme quoi le cinéma français peut arriver à nous surprendre. Alors bien sûr, effectivement, quand on regarde, quand on fait une émission comme celle-ci, on regarde dans le prisme de il y a 20 ans, certes, mais on est obligé de sélectionner. On peut pas parler de tout ce qui est sorti. Il y a plein d'autres choses qui sont sorties qu'on n'a pas mis sur le conducteur et qui étaient désagréables, voire complètement à chier, donc forcément on ne parle que du meilleur. Mais là, faut avouer que en deux semaines, on a eu deux gros films qui sont encore des films qu'on peut regarder aujourd'hui, quoi.
Ouais. Et moi, j'en ai un troisième de film français qui est sorti du coup en avril 98, le 22 avril, enfin la semaine du 22 avril. C'est Serial Lover avec Michel Laroque.
Oui. Ah oui, c'est un film que j'ai pas vu en fait, et j'ai pas pensé à le mettre sur le conducteur celui-là.
Voilà, avec Michel Laroque et l'excellent, j'ai oublié son nom, qui joue un inspecteur. Mince, je l'avais avant l'émission. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, Albert Dupontel, là.
Albert Dupontel, voilà. Voilà, en plus que j'aime beaucoup.
Oui, j'ai
Albert
pas vu
Dupontel.
Le film, mais je le sais.
Et alors, donc, le pitch,
parce
c'est
que
quoi ?
Tu as accès à Internet.
Voilà. Non mais le pitch c'est quoi ? C'est Michel Laroque qui joue une nana qui organise un dîner avec tous ses ex. Idée de merde.
Ça ne peut passer que ça peut que très bien se passer.
Ça ne peut que très bien se passer, et alors tout se barre en couille. En fait, elle va commencer à tous les tuer un par un, mais par inadvertance, attention, par accident. Et c'est complètement ouf. Elle a que des couilles après quand elle essaye de planquer les corps, et c'est énorme. C'est une espèce de de comédie noire. Mais il la rentre quoi, c'est
Mais j'ai un vague souvenir du truc.
Franchement, ça pareil, ça se mate comme ça. Tout seul tranquillement, c'est toujours appréciable maintenant. Voilà, ça fait toujours marrer, ça a pas fait un score de ouf à l'époque. C'est un petit peu passé inaperçu. Je crois que je l'ai vu d'ailleurs genre un an après sur Canal, un truc dans le genre, hein. J'ai pas été le voir au ciné, ça, tu vois,
j'avais pas entendu parler de ce film sur Canal.
Mais j'avais passé un bon moment quoi, ça m'a bien fait marrer, c'était cool et Albert Dupontel en inspecteur est énorme.
Et le film a été fait par James Huth. James Huth qui a fait d'autres succès français comme Brise de Nice.
Ah ouais, bah tu vois, bah pour le coup, je préfère Serial Lover quoi.
Ah ouais, mais c'est enfin je veux dire en termes de succès, après on aime ou on n'aime pas Brise de Nice, mais
après Brise de Nice, ça reste, ouais, là c'était son succès quoi. Ouais.
Il avait fait ensuite, alors après il a fait du bon, hein, il a fait Hellphone. Avec tu sais si ma mère est bonne, ça doit être le film avec oui, c'est ça avec le gamin des choristes là avec le téléphone. Téléphone portable de l'enfer. Il a fait Lucky Luke aussi.
Oh putain, ouais. Ouais. Merde.
Il a fait Brise 3.
Oui, là aussi.
Et il a fait un truc qui s'appelle Un bonheur n'arrive jamais seul, avec Gad Elmaleh et Sophie Marceau. En 2012.
Voilà. Que le monde veut oublier.
Voilà. Mais ouais, je suis passé à côté de ce film. Si l'occasion se présente, je jetterai un œil sur ce film-là que j'étais passé à côté, tu vois.
Ouais. Non, très très marrant, ouais.
Et à noter, pareil, hein, merci Wiki, hein, sans qui on ne pourrait pas vivre. Qui m'a, grâce à Wiki, je sais comment on fait pour respirer, sinon je savais pas. Il y a eu un remake coréen de ce film, sorti en 2007.
Oh putain.
Qui s'appelle Femme Fatale Happy Killing.
Ils sont allés chercher loin pour le titre.
Bah, il fallait marquer la parenté avec le film français d'origine, donc.
C'est marrant. Non, mais c'est marrant. Voilà, on a fait un remake coréen, tu vois, comme quoi on dit qu'on veut que les Américains font toujours des remakes, mais en Corée aussi. Ils en font. On va faire un petit tour du côté des séries TV. Pas grand chose à noter au mois d'avril 2018. N'importe quoi. 98. Le 6 avril débuta aux États-Unis. L'Angleterre connaissait déjà ce phénomène depuis quelques mois déjà. Le début des Teletubbies.
Oula, oui, qui a traumatisé toute une génération.
Sur la chaîne PBS, Public Broadcast Service, qui avait commencé quand même le 31 mars 97 sur BBC 2. Et voilà, c'est le début des Teletubbies aux USA. Il nous restera encore quelques mois de répit avant que ça arrive en France, puisque ça débarquera sur Canal+, en octobre 98. Les Teletubbies.
Le début de la fin. Une génération de décérébrés, ensuite.
Et les USA qui fêtaient également le 9 avril, le 5000e épisode The Price is Right, donc le juste prix.
Ah, émission qui continue. Hein,
émission qui continue toujours, qui est maintenant présentée par Drew Carey, mais qui était avant présentée par Bob Barker, qui d'ailleurs Bob Barker, qui
c'est
est maintenant.
Drew Carey qui est.
Ouais,
qui,
c'est Drew Carey qui,
ouais, depuis,
qui a repris,
5 ans,
ouais, depuis 4-5 ans, ouais, ouais.
Ah d'accord.
Drew Carey qui fait l'émission et qui s'en sort très bien. Pour en avoir vu quelques épisodes avec lui, il fait très bien le taf. Bob Barker qui est enfin je veux dire qui a été le présentateur emblématique de The Price is Right et qui a maintenant carrément le studio de The Price is Right à son nom. Le studio dans lequel est tourné The Price is Right ça s'appelle maintenant le studio Bob Barker quoi.
Bah je pense qu'ils vont changer la force quoi. Comme... Vu les scandales qui sont sortis.
Chut, faut pas le dire.
Bob Barker ayant la mauvaise habitude de disons laisser sa braguette ouverte autour des modèles un peu trop souvent.
Mais oui, mais c'est qu'elle glisse.
Et de
leur
donner de refermer.
Ça glisse et elle fait que de descendre. Il fait pas exprès.
Voilà.
Puis il est vieux, il est gâteux, il sait plus ce qu'il fait.
Jeune mademoiselle, merci de me refermer la braguette, mais pas avec
la bouche.
Alors que nous, on avait quand même Philippe Risoli ouais. et ensuite Vincent Lagaffe.
Et avant, je me demande si Patrick Roy avait pas présenté le juste prix aussi.
Oh, je sais pas, c'était pas La Famille en Or plutôt.
Il avait présenté La Famille en Or, mais je me demande s'il était pas passé sur. Oh, je sais plus. Mais Philippe Risoli, quoi. Philippe Risoli qui a aussi été faire le millionnaire, hein, on s'en souvient tous. Et puis qui nous avait chanté Cuitas les bananas.
Oh, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça on en parlera peut-être dans
un
quelques
jour,
années.
Un jour, peut-être.
Dans quelques années, parce trucs, que. Mais,
ah, tu connais pas Cuitas les bananas, les couper en dos, les potatoes?
C'est en 2000. Hein. C'est en 2000.
Ah, mais c'est les paroles, hein. Ça, c'est les vraies paroles, hein. Je t'assure.
C'est fin 2000, ça.
Philippe Risoli s'était mis à la chanson. Ouais.
Et puis il a arrêté, ou la chanson l'a arrêté plutôt. Bon, la musique l'a arrêté.
Après, on a quand même eu Dr. House et pas Mickey Mouse. Hein,
C'est toujours de lui ?
Non, là c'était de...
Christophe Ondelat.
Christophe Ondelat. Hein.
D'accord. Ouais. Rassurez-moi, ils ont arrêté le parolier, ils l'ont pendu hein, ensuite. Ils ont dit on va l'arrêter pour crime contre l'humanité.
Je crois qu'ils n'avaient pas l'un et l'autre de parolier. Hein. Je crois que c'était eux qui.
Risoli s'est jamais caché que c'était parce que bah voilà l'occasion s'était présentée. Il avait toujours envie de faire le con et il avait voulu faire le con avec cette chanson là quoi. Que c'était une chanson purement purement de déconnade quoi.
Parce que les pommes de terre Risoli, bien sûr.
Oh putain. Mon Dieu, on est parti tellement loin.
Explication de texte, tu vois. Tu endosses les patatos, il s'est dit, voilà, je m'appelle Risoli, pomme de terre Risoli, bon, ça passe.
Ça passe, oui.
On va dire que ça passe.
Pas sur Popo, ça va.
Mais je vous propose, tant qu'on est sur la musique, là, d'y passer tout de suite. La transition est toute faite, hein. Bon, on va un peu changer de style, hein. On va un peu plus rentrer dedans. Puisque moi j'ai fait mes recherches, bah bien sûr, hein, sur la partie qui l'intéresse. Rapidement.
Ça pète.
Rapidement, sur les sorties métal. On a eu. Alors, j'ai eu du mal à trouver une date exacte. J'ai trouvé une référence au 14 mars, mais en même temps j'ai trouvé une référence à avril aussi. L'album de Symphony X, Twilight in Olympus, qui est sorti. Petit bijou. Voilà, petit bijou. Mais c'est personnel.
Ah, t'es parti sur la partie musique.
Oui, bah oui, puisqu'on parlait de musique. Et puis, on va finir par la partie manga où on aura tous plus à dire. Allez, très rapidement, on avait le 8e album d'Halloween qui s'appelle Better Than Raw. On avait le 21 avril un album de Cannibal Corpse, Gallery of Suicide. Cannibal Corpse, quoi. Toujours. Second album d'Arch Enemy qui s'appelle Stigmata, toujours avec le premier chanteur, qui était un homme au départ. Le 21.
Avant de devenir capitaine.
Bah avant qu'il soit remplacé par Angela Goslow, qui est la chanteuse emblématique de d'Arch Enemy, enfin, qui était puisque maintenant elle est plus que manager du groupe et c'est Alyssa Whiteglass qui a repris le chant. Mais toujours avec des voix aussi crades. Hein, voilà. On avait surtout le 21 avril le premier album de Soulfly, le nouveau projet de Max Cavalera, l'ancien chanteur et guitariste de Sepultura. Qui avait quitté le groupe et qui avait donc lancé son premier album, enfin son nouveau groupe et le premier album Soulfly, premier album sorti donc le 21 avril 98. Il y avait également le 28 avril Blind Guardian Nightfall in Middle Earth, album qui est bah, comme son nom l'indique complètement basé sur les écrits de Tolkien. Oui parce que dans
c'est une idée originale.
Ah ouais, mais dans le métal on sait faire des trucs bizarres comme ça. Hein. C'est du power metal. C'est bah faut aimer la voix d'Anticourt, hein, parce que il a une voix assez aiguë, assez haut perché. Mais franchement c'est très très bon quoi, très très bon. Et 25 avril, alors celui-là je l'ai gardé. Alors ça c'est petite dédicace à notre ami King Long. Le 7 avril, c'était la sortie US de l'album de Savatage, The Wake of Magellan. Je sais qu'il est un gros, gros fan de Savatage. Comment ne pas l'être, d'ailleurs. Un très, très bon Savatage. Voilà. Avant-dernier album du
français,
groupe.
En français, Savatage.
Savatage. Savatage en français. Savatage. Mais non, très, très bon groupe, Savatage. Et puis le 25 avril, et je le mentionne parce que... teasing!
Ah oui, c'est juste pour faire de l'autopromo.
Le premier album de Nile, qui s'appelle Amongst the Catacombs of Nefrenka. Nile, qui est un groupe de death metal qui est basé uniquement, uniquement sur l'Égypte mythologique. Vous voyez où je veux en venir?
Non, pas du tout.
Et oui, le prochain Rock City. Le prochain Rock City qui va traiter de la mythologie égyptienne.
D'accord.
Et oui, c'est la seconde partie de cette séquence mythologique. La première
donc, faudra
était.
Faudra écouter par exemple ça en lisant du Moon Knight, quoi.
Par exemple, voilà, voilà. Non, c'était surtout pour dire que j'ai bien avancé là sur l'écriture du second épisode mythologique, donc sur la mythologie égyptienne. Au niveau du choix des morceaux, j'en suis à 75-80% à peu près, j'ai quasiment... Oh,
j'ai eu peur, j'ai eu très très peur, je croyais que t'en étais à 75 morceaux, je me suis dit, le mec...
Ah, non, attends, mes émissions sont déjà trop longues, les Rock City sont déjà beaucoup trop longues.
Il y aura 18 heures et...
Non, parce que j'arrive avec 1h10 de musique à faire une émission qui dure plus de 2 heures, tellement je parle.
T'es fort, hein.
Oui, je parle tout seul, mais j'y arrive. Donc là, ouais, l'écriture a commencé, au niveau de l'écriture, j'en suis à peu près à 20%, au niveau du choix des morceaux, j'en suis à 75-80%, sachant que j'ai déjà d'autres morceaux en vue. Donc, si tout va bien, et vu que je suis en congé cette semaine, ça devrait aller, normalement, je devrais pouvoir le diffuser la semaine prochaine.
D'accord, donc dans 3 semaines en fait, parce que t'as toujours des merdes. Hein, qui...
Non, mais non, mais me porte pas la poisse, putain.
Sam, le mec.
Mais c'est, je suis réaliste.
Qui remet en confiance, hein. Qui.
Oh, je t'aime, Sam. Merci. Merci. Dernier petit.
Je douche les espoirs avant qu'ils ne naissent, moi. C'est comme ça.
Tu les douches dorés.
Oui.
Tu pisses sur nos espoirs. C'est ça, en fait. Dernier petit point du côté métal, hein, parce que voilà, c'est ma partie. Si jamais un de ces quatre, vous voulez rajouter d'autres trucs dans les styles musicaux qui vous plaisent, allez-y, hein, faites-vous plaisir. C'est vrai que moi, je vais me concentrer là-dessus parce que c'est plus mon domaine. C'est le 20 avril, officiellement, le split du groupe Faith No More. Groupe qui se reformera qu'en 2009. Chacun étant parti sur des side projects, etc. Et leur dernier concert a eu lieu le 6 avril en première partie d'Aerosmith. D'ailleurs, ça se demandait pourquoi Faith No More faisait un concert avec Aerosmith, ça n'a rien à voir, mais peu importe. Et c'était leur dernier concert, et le 20 avril, ils ont officiellement annoncé qu'ils se séparaient, chacun partait dans sa direction, et le groupe se reformera en 2009, et nous ferons d'ailleurs une excellente prestation le dernier Hellfest. Excellente prestation de Faith No More. Dernier point sur la musique, autre, mais un scandale qui avait effrayé pas mal la chronique à l'époque, en avril 98, c'est le scandale George Michael. Est-ce que quelqu'un veut en parler?
Bah, c'est simple, il fait son coming out.
Mais forcé. En se faisant que...
Oui. Oui.
Bah, grosso modo, l'histoire, il était dans un lieu qui était réputé être un lieu de drague gay à Los Angeles. Des espèces de toilettes publiques qui étaient de source bien connu, un lieu de rencontre gay, et il a sorti sa bite, sauf que c'était un flic, et le flic l'a arrêté. Et George Michael aura quelques soucis avec ça, exhibition publique, etc. Je peux comprendre que le mec a été un petit peu énervé vis-à-vis de ça, et ça se comprend parce que selon sa version, hein, le flic avait quand même sorti sa bite.
Oh là là,
désolé, il y a eu un petit pop-up avec le son et donc tout le monde l'a entendu. Le flic avait aussi sorti sa bite, ce qui fait que, bah, comme il disait si bien dans ses interviews, quand quelqu'un vous déballe le matos, bah, vous déballez le matos en retour, quoi.
Bah oui. Vous êtes poli?
C'est donnant.
C'est, je trouve que bon, voilà. Après, quelle est la vraie version? Quelle est la bonne?
Il est bien élevé,
au
moins.
Non, mais au-delà de ça, si je comprends bien, donc, c'est devenu de notoriété publique parce qu'il a été arrêté et donc, forcément, l'affaire est sortie, mais.
Voilà, il a été obligé de faire son coming out. C'était pas connu avant. Tout le monde s'en doutait.
Mais
c'était un secret de polichinelle.
Comment, dans un lieu comme ça qui est un lieu connu, le mec n'était pas reconnu, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même bizarre.
Oh bah tu sais,
il était pas déguisé quoi, il était pas.
Ouais, il était pas déguisé, masqué, mais enfin George Michael n'avait plus vraiment beaucoup de carrière en 98 hein.
Mais ça l'a bien relancé d'ailleurs.
Et ça a relancé sa carrière et d'ailleurs il aura fait un clip dans lequel.
Ouais. Bien sûr.
Le clip lequel il dansait il habillé en flic, voilà, oui, dans les toilettes publiques, ça a permis de relancer sa carrière pas mal, ouais.
Ouais.
Mine de rien.
Bah c'est devenu une icône un peu. Hein,
c'est devenu une icône, ouais. Mais le mec a avoué.
Pop culture gay.
Rappelons qu'un George Michael est décédé en fin 2016 pardon. Excusez-moi.
Déjà, moi j'ai l'impression que c'était même plus récent, tu vois.
Mais le mec a avoué que depuis après avoir, il pensait que justement ce coming out forcé aussi simplifierait peut-être pour lui le fait de vivre et être gay. Et finalement, ça a pas tant simplifié les choses que ça. Ça les a même un peu plus empirés. Ouais, un peu plus compliqué.
Ah, dommage.
C'est fou, hein. C'est fou de se dire que faire ton coming out, ouais, on était en 98, c'était pas encore totalement accepté comme aujourd'hui. Encore même aujourd'hui, c'est pas complètement accepté, mais la société est beaucoup plus ouverte.
Disons que c'est plus, on est plus habitué à voir ça.
Oui, bien sûr.
Tu vois, avoir ce genre de révélation, quoi. Enfin voilà, quoi.
Ouais.
De démarche.
Il y a 20 ans, c'était un peu moins socialement accepté, mais ça commençait à être quand même relativement dans les mœurs, on va dire.
Ouais.
Et ben mine de rien, ça a quand même compliqué sa vie plus qu'autre chose, quoi. Alors que le mec était ensuite en couple pendant très longtemps avec quelqu'un, avec un
séparateur. C'est le côté star aussi.
Mais mine de rien, ça fait quand même deux scandales gays qui explosent en assez peu de temps, 98, parce que je vous rappelle, il y a quelques mois, je vous parlais de la révélation de Rob Halford aussi. Rob Halford, qui en pleine, donc le chanteur de Judas Priest, qui en pleine interview avait révélé aussi son homosexualité. Et voilà, les langues commencent à se délier en 98.
C'était pas le Watergate, c'était le Watergate. Oh,
je dis bravo monsieur. Bravo monsieur. Non.
Ça n'a jamais été fait avant.
Bref. Du coup, voilà, c'était le petit point musical et on va conclure avec le point du Japon. Le point,
Est-ce que vous voulez encore un petit top rapide des sites?
Ah, mais oui, c'est vrai.
Pour le mois d'avril. Bah, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de changements. Devinez qui est numéro 1 en avril. Des singles en France.
Malheureusement, aucun de ceux que je viens de citer, donc.
Non, mais vous avez bien une idée.
Non, franchement, non.
My Heart Will Go On.
Toujours, elle est toujours là, hein, Céline Dion, en avril 98.
Céline Dion, la pauvre Céline qui ne peut plus chanter actuellement. Vous avez pas suivi les infos?
Qui pourrait ne plus jamais chanter. Un drame.
Tu n'es pas au courant, Sam, peut-être?
Non, je suis pas allé à ce genre d'infos.
C'est qu'en fait, apparemment, elle a un problème dû à son d'oreille et en fait, elle s'entend énormément en résonance et ce qui fait que elle peut quasiment plus chanter, quoi.
D'accord.
Elle va être obligée peut-être de mettre terme à sa carrière. Oh, qu'est-ce que c'est dommage.
Eh ben, elle sait ce que c'est, peut-être nous.
Je voulais pas y aller comme ça, mais bon.
Donc, dans l'ordre, là, très vite.
Non, mais c'est pas vraiment mon style, donc.
Il y avait toujours Madonna, Frozen, Janet Jackson, enfin. Franchement, quasiment. Ce que j'avais dit l'autre fois, hein, Ricky Martin, qui est toujours là.
Ouais, mais regarde ce que tu nous as cité, hein, quand même. Céline Dion, Madonna,
Janet
Jackson.
Sweetbox aussi.
Et à part ça, on nous dit qu'il n'y a pas d'artiste féminine dans le top, quoi. J'avais vu passer ça il y a quelques mois, que les gens disaient que oui, les artistes musicales féminins.
Alors là, le top 4, en tout cas, c'est que des femmes. Et à quoi est en cinquième position et à quoi c'est un groupe, mais il y avait quand même la femme.
C'est marrant, quoi. C'est marrant de voir que certains ont des prismes assez biaisés, quoi.
Ouais. Rétrospectivement, ils disent voilà, ça a évolué. Bah finalement, elles étaient là, elles étaient présentes. En tout cas, en France, dans le classement single.
Ouais, mais enfin, Frozen, Janet Jackson et Céline Dion, c'était partout dans le monde. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais. Et Sweetbox aussi. Le truc, ça me dit quelque chose.
Moi, quoi, beaucoup.
Bref, il y avait Ricky Martin toujours là, Stomy Bugsy. Bon, papa à moi est un gangster. Je sais que ça te fait toujours plaisir, Steve. Je te rappelle. Patrick Sébastien était en 8. Il passait de la 10e à la 8e place.
C'était
ça montait avec la Fiesta.
La Fiesta.
Mmh. Je savais même pas que c'était aussi vieux. Quoi.
Gros succès pour lui. Ouais, je pensais pas que c'était si vieux non plus.
Mais moi non plus. Alors il y avait une entrée, tiens, en 11e position, Diablo 666.
Oh là là. Secours.
Non, moi, ça me faisait marrer à l'époque. Nathalie Imbruglia, bah tiens, encore une femme hein, qui fonctionnait bien à l'époque.
Ouais,
avec Thorne,
j'ai vu ça passer il y a quelques mois, je sais plus où, qui disait que ouais, la représentation féminine dans la musique était, merde quoi. Preuve que non.
Je sais pas où ils ont vu ça. Hein.
Oui, bah, tu sais. Hein.
Ah, il y avait les 2B3 en 14e position, Don't Say Goodbye. Les Spice Girls toujours hein, qui fonctionnaient bien en 16e position avec Stop. Je sais même pas d'ailleurs ce que c'est comme.
Bah ils ont stoppé titre. D'ailleurs.
Voilà. Peu de temps après, ah il y avait une entrée en 17e. Louise Attaque, Ton Invitation.
Ah.
Au secours.
Ah tu vois, c'est génial, j'ai accepté Attaque, par erreur ton invitation.
Je déteste Louise Attaque.
Je suis gouré dans la saison.
Oh là là, mon Dieu, je déteste Louise Attaque, putain.
Oh, moi ça me faisait marrer. Franchement, c'était pas désagréable. Bon.
Moi j'aime beaucoup Louise Attaque.
Il y avait la fameuse Davinia dont j'avais parlé la dernière fois en 21e position. Alan Théo.
Oh non 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 non. Non non, n'ouvre pas la boîte à souvenirs.
Oh mais moi. voilà, oh, du Florent Pagny avec Chanter. En 28e, un truc pour les gosses, les Minicum.
Et ouais, ça marchait aussi à l'époque.
Avec
ça.
Un titre qui s'appelait On va la gagner. Sans doute en référence à la Coupe du Monde, puisque oui, je rappelle qu'on était à l'aube de cette Coupe du Monde, mes amis. Et puis, bah voilà, bon, enfin bref, on pourrait y passer longtemps hein, sur ce top.
Mais on va pas le faire.
The Temperer
Mais le temps file. Le temps file et le temps court, hein, comme disait Alliage. Le temps ouais. court, parce qu'on est dans Alan Théo, les To Be Free, tout
ça. Tu t'en souviens encore, quand même. Ça fait peur.
Comment oublier tu m'oublieras, disait la Rousseau aussi.
Et on a réussi à l'oublier quand même pendant un petit moment.
On va donc passer du côté du Japon pour l'année 98. Enfin, en tout cas, du côté pas forcément du ce qui sortait au Japon, mais tout ce qui sortait chez nous.
Ouais, plutôt rester en France, oui, parce que là, je vais avoir du mal à le retrouver. Je
Est-ce que on commence peut-être par la partie anime et on finira par la partie papier après?
Ouais.
Eh bien, écoute,
la partie anime, parce qu'on a, quand même trois gros poids lourds qui sont sortis en avril 98, dont un qui est personnellement l'un de mes animés préférés de tous les temps, et je pense que ça le restera. Ben, je pense.
Cardcaptor Sakura, évident.
Okay. Mais qui était un anime pas mal. Hein. J'étais tombé sur plusieurs épisodes à l'époque, enfin pas à l'époque, mais au début des années 2000. Franchement, ça c'est bien. Hein. C'est du boulin, quoi.
Moi, j'ai jamais vraiment regardé. Enfin, j'en ai vu, mais c'est moi le côté petite fille, ça m'attirait pas vraiment.
Oui, je sais. Non mais à partir du moment où tu regardes un peu comment elles ont déconstruit le genre du de la Magical Girl.
Non mais c'est vrai que moi quand j'ai regardé ça, je me suis arrêté qu'au côté petite fille machin, j'avais passé l'âge quoi. Si tu veux. J'ai pas été chercher plus loin alors que bah c'est du
Mais plan, idem quoi. Parce que voilà, je commençais à être légèrement vieux déjà.
On l'est tous. Ah mais 98 moi perso 98, j'avais 14 ans déjà.
Moi, j'en avais quasiment 15 ou 16, donc tu vois, même plutôt 16, ouais.
Attends, si je... Oui, j'avais 14 ans, ouais, c'est ça.
Et donc, Cowboy Bebop, qui reste pour moi une référence absolue, tant en termes d'animation que de scénario, que de musique, enfin, c'est un de ces trucs que je me remette au moins une fois par an, parce que c'est, même 20 ans après, une référence absolue. Et le troisième, on en parlait il y a quelques mois dans une émission, Trigun.
Parce que j'ai commencé à le mater sur Netflix un soir d'insomnie.
Mmh. Ah, c'est sur Netflix.
Ouais, Trigun est sur Netflix, ouais.
D'accord, je savais pas. Je savais pas qu'ils mettaient des trucs aussi anciens.
Quelques-uns, c'est rare. Ouais. C'est rare. C'est vraiment mon gros défaut avec Netflix, c'est que vraiment, j'aimerais qu'ils nous remettent un peu du vieux aussi. C'est bien de nous faire des nouveautés, c'est très cool de nous faire des nouveautés, et ça attire les gens. Mais ce serait bien de penser qu'il y a quand même des trucs qui valent rien aujourd'hui en termes de licence. Putain, je rêverais d'avoir une vieille merde comme un supercoptère ou un magnum ou un truc comme ça, tu vois. Disponible sur Netflix, putain, j'aimerais, quoi. J'aimerais.
Faudrait faire un service comme Netflix, ça s'appelle Vieille Merde.
Vieille Merde des années 80, vous avez grandi avec cette merde, on vous
la
refaire.
Je suis sûr que ça est, avec un titre pareil, un service qui a un titre pareil et qui propose des trucs comme ça, je suis sûr que ça marcherait en plus.
Ouais. Et la pub, ce serait quoi. Venez acheter notre merde, venez acheter notre merde.
Fab qui nous dit, il y a Samurai Champloo niveau anime.
C'était de 2006.
Je pense qu'il voulait dire sur Netflix.
Ah, Ouais. Qui est aussi de Shinichiro Watanabe.
Ils sont sur Netflix, hein, je les ai vus passer aussi, ouais.
Mm. Voilà, donc pour l'animé, c'était ça. Donc, gros mois et, on sortait de la vague Evangelion, ça faisait du bien.
Pardon, Cowboy Bebop.
Ce qui me fait marrer, ouais, c'est qu'en plus, Cowboy Bebop avait été lancé comme, même pas la grosse sortie de la saison. Parce que c'était un truc qui s'appelle Brain Power Red, qui est plus loin dans la liste des sorties d'avril. Alors, Brain Power est passé complètement inaperçu, et en fait, Cowboy Bebop a été la révélation totale. Le truc auquel personne s'attendait, et voilà, 20 ans après, on en parle encore.
Cowboy Bebop qui aura le droit à une diffusion sur Canal+, et qui fera aussi de Canal+, une chaîne où t'avais quand même des mangas qui étaient...
Ouais.
Enfin, des animes, disons-le comme ça, qui étaient un peu plus adultes, un peu plus... Ça sortait du cadre du shonen classique, et ils ont eu une bonne séquence avec les animes. Hein.
Ouais, de 98 au début des années 2000. Ils en ont sorti quelques-uns, et ça faisait plaisir d'en retrouver.
Et du coup, on va passer sur la partie papier maintenant.
Ouais.
Parce que là, il y a des choses à dire.
Là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd, puisque le mois d'avril 98 marque la sortie du volume 9 de Gum. Dernier volume qui se terminait sur une conclusion aussi noire que le reste de la série.
Une conclusion concluante.
Voilà.
Dirons-nous.
Disons qu'on se demandait un peu comment il pourrait faire pour faire une suite, et il l'a trouvé, mais c'était pas évident, hein, vu les dernières pages, puisque ça se terminait sur l'héroïne qui se prenait une bombe en pleine face et était réduite en miettes, donc son cerveau y compris, donc c'était un peu difficile de voir comment il pourrait y avoir une suite.
Ah, je me rappelle, ouais. Je me rappelle l'avoir feuilleté à l'époque, ce tome 9, parce que moi, c'était pas une série que je suivais. Et je m'étais dit, tiens, je vais peut-être m'y mettre. J'ai feuilleté le tome 9 sans savoir que c'était le dernier. En tout cas, pour l'époque. Et j'étais tombé là-dessus, et je me dis, merde, bon bah, finalement non, quoi. Si ça s'arrête déjà au tome 9, bon.
Sachant que quand on écoute, en fait, l'auteur dans les interviews qu'il a données ultérieurement, c'était pas censé être la fin définitive déjà à l'époque. Le problème, c'est qu'il a eu apparemment des grosses difficultés personnelles, ce qui fait qu'il a dû arrêter la série parce que il n'y arrivait plus. Et donc il a conclu comme ça. Et ensuite, il est revenu au début des années 2000. Et pour nous sortir Last Order et maintenant Mars Chronicle. Et si vous entendez le gros soupir de ma part, c'est que je souffre, hein, dessus, je souffre. Mais j'arriverai au bout, tu ne me tueras pas, je la finirai cette série.
Ah, je l'ai pas mis sur le conducteur, mais tu arriveras au bout. Parlons de la sortie du 7e volume de Détective Conan, Sam. Juste 2 secondes. Arrêtons-nous sur le fait qu'en 98 sortait le 7e volume qui existe encore.
Oui, puisqu'on en est au volume 92. Et que j'attends le volume 93 pour rater.
Et c'est plus que One Piece?
Oui,
c'est plus que One Piece. One Piece en est au 83 ou 84e volume.
D'accord.
Mais je pense que One Piece s'arrêtera avant Détective Conan. Hein.
C'est probable.
Détective Conan.
Ça dépend à quelle vitesse il avance, hein, maintenant l'auteur, parce que il y a quelques années, il disait qu'il était à 50-60% du récit, et là, les dernières infos qui transparaissaient, c'est qu'il commençait à en avoir ras le cul et il voudrait bien terminer.
De Détective Conan ou de One Piece, tu veux dire?
One Piece. Sachant que il a quand même commencé la série en 1999.
En 97, je crois.
Non, de One Piece. One Piece a commencé en 99.
Ah bon? Je crois que c'est en 97.
Non, de mémoire, je crois que c'est 99.
Bon, on va vous départager.
Faudra vérifier, mais il me semble que c'est 99.
Je vais vérifier tout de suite sur mon ami Wiki.
Mm-hmm.
One Piece.
Par contre, Détective Conan a dû commencer vers 95.
22 juillet 97 pour le premier.
Ah oui, alors. Ben bravo, Benny.
C'est 99, c'est l'anime.
Ah.
C'est l'anime qui a commencé en 99.
Voilà, donc ça fait 21 ans qu'il est dessus, donc je comprends qu'il commence en avant-bras.
Ah, c'est la série d'une vie, hein.
Ouais.
On avait également...
Bah, tu imagines tenir le rythme d'une série hebdomadaire comme ça pendant 21 ans.
Ouais. Surtout que le mec a planifié plein de trucs, quoi. C'est surtout que là, lui, on peut pas le taxer de...
Le plan est énorme, hein. Ouais. C'est...
On peut pas le taxer de Bendisri en disant « Ouais, j'avais tout prévu !» Alors qu'en fait, pas du tout. Non, lui, il avait vraiment placé des trucs dès le début. Certes, il les a sûrement étoffés. Ouais.
Mais... On arrive même à repartir sur Bendis en parlant manga.
Ah, on est fort, hein.
Ouais, mais c'est l'exemple, quoi. Cap qui nous disait d'ailleurs sur le chat tout à l'heure, j'ai découvert Monster grâce à Canal+. Ouais, autre série, mm-hmm. autre série de ouf hein, de Canal.
Qui avait été publié, l'animé est sorti au début des années 2000 de mémoire.
C'est vrai que Canal, parenthèse, mais a été quand même un laboratoire intéressant pour découvrir des séries manga auxquelles on serait pas sur lesquelles on se serait pas forcément arrêté.
Mais même les films animés, c'est les premiers à les avoir sortis. Hein, c'est vrai. Tout ce qui était les films de Miyazaki ou même Akira, c'était les premiers à diffuser ça en France. Hein, c'était vraiment une claque énorme à chaque fois.
Et j'ai découvert, alors c'est beaucoup plus récent, Excel Saga sur Canal.
Ouais, alors moi c'est
la série comique.
Le quoi?
C'est une série comique, ça, Excel Saga, il me semble.
C'est DC Comics.
Une série
comics.
Ah, comique, oui. J'ai compris, c'est DC Comics. Je me suis dit, le mec, il est devenu fou.
Non. Je mélange pas mes références, ça va.
Tout le monde s'est fait chez Marvel, en plus.
Tu disais, Steve.
je disais, c'est le truc qui est complètement barré, ça, Excel Saga, non?
Ah ouais, oui, totalement. Ouais, c'est un truc d'un truc complètement.
Ouais, je me souviens que j'avais tenu un épisode là-dessus, à l'époque.
Le début, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais plus la série avance, plus ça devient barré et plus c'est drôle, quoi. Je trouve que les plus réussis sont les derniers épisodes.
En parlant de vieillerie, puisqu'on parlait d'Akira juste avant, une autre vieillerie sort en France au mois d'avril. C'est une version couleur de Cobra.
Oui, le truc qui a été réédité 150 000 fois et que je n'ai toujours pas lu. C'est assez dingue. Je n'ai de des souvenirs qu'un anime, en fait. Je pense qu'on a tous vu à un moment ou un autre en France. Mais j'ai toujours
d'origine. Ouais. On avait également, alors, au rang des sorties un petit peu pêle-mêle, dans les grosses sorties du mois d'avril, on avait le Fly 25, parce que Fly, c'est toujours cool.
Oui.
Voilà. Tous les tomes sont cool. Il n'y a pas un tome à jeter. On avait l'avant-dernier tome de Sailor Moon, c'est juste pour préciser que c'est l'avant-dernier, donc on parlera du dernier quand ça sortira.
Ou pas.
Si. Et puis, j'en parlerai, monsieur. Et on avait le Dragon Ball, tome 31.
Oui, et on avait le demi-volume 65 qui devait correspondre au volume 33 déjà, première moitié.
Ouais. Cell, tout ça.
Cell, combat contre celle qui pensait vraiment.
Cell, les androïdes, tout ça.
c'était bien.
Mais c'était bien, encore, mais bien c'était bien.
Franchement,
c'était juste Freezer en condensé et en plus puissant.
Moi, je suivais ça au rythme mensuel dans le kiosque.
Ouais, moi aussi.
Mais voilà, donc on avait un petit peu d'avance. On était. Je pense qu'à cette période, on s'approchait du coup de la fin du tournoi de Cell, quoi.
C'est le numéro 65, donc je te dis, ça devait correspondre au numéro au volume 32 et début du volume 33. Donc en fait, on devait être au début du tournoi.
Le 65, hein, sur la cover. Déjà, le truc s'appelle Cell versus Trunks. Et t'as un Gohan en habit de Piccolo, Super Saiyan, tu sais, genre Super Saiyan, salle du temps, quoi.
Ouais, c'est quand ils sont sortis de la salle du temps et de l'esprit, ça doit être ça. Ouais.
C'est le seul moment où Tenshinhan, il est super badass et il arrive à retenir Cell en lui faisant 30 000 fois son esprit.
La dernière fois qu'un des personnages humains a servi quelque chose.
Ouais. Ah, mais là, il était... Là, j'étais comme un ouf quand il faisait ça, Cell. Tu dis, ça y est, il se révèle. Il va...
En fait, Tenshinhan est un Saiyan, lui aussi.
On le savait pas parce qu'il se rasait la tête depuis le départ.
Ce qui est marrant dans les mangas, c'est que t'as des persos comme ça, tu sais, des persos de merde, qui d'un seul coup se révèlent, tu vois, ils ont leur petit moment de gloire, chacun a son petit moment de gloire, bon, il y en a qui sont vachement éphémères, quoi, ça dure 5 minutes et puis après on range les joueurs.
Ils ont essayé de lui faire un up, hein, dernièrement, hein, dans des BS, hein.
Ah, j'ai vu ça, j'ai cru apercevoir que,
Mais la séquence était énorme, dans l'animé,
Ouais.
On avait aussi le Chevalier du Zodiac, tome 8, voilà.
Mais
toujours la saga du
le début du sanctuaire, je crois.
Mm-hmm, c'est ça.
Puisque les 7 premiers tomes, ça doit être tout ce qui se passe avant, plus ou moins.
Oui. Voilà. On peut noter aussi, en tant qu'on y est, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas 50 sorties à l'époque. Il y en avait quelques-unes, mais il n'y avait pas 50 sorties. Hein, mais t'avais un planning d'une quinzaine de tomes, hein, mais t'avais le Ranma 16, le City Hunter 25... Le Kimagure Orange Road volume 4. Voilà. Wingman, qui était publié par Manga Player, à l'époque où ça existait encore.
Ouais. Il n'y avait pas grand chose, mais en même temps, franchement, c'est des classiques.
C'est des classiques,
enfin,
c'est des classiques.
Et à chaque fois, je me prenais Fly, Saint Seiya, Dragon Ball, enfin voilà. Bah, quoi. C'était vraiment le trio, incontournable, quoi.
Au rang des moins connus, t'as Tekken Shimi, qui sortait son volume 4.
T'as Orotsuki Doji qui est un petit
et t'avais un truc alors que je connais pas du tout chez Tonkam qui sortait qui s'appelle Fushigi Yugi.
Bah, c'est un, je crois que c'est un shoujo, ça.
Ouais, c'est un shoujo, voilà. Ils ont sorti deux tomes en même temps, le tome 1 et le tome 2 le même mois.
Non, mais c'est une grosse franchise, hein, ça. Bah,
je, moi, je connais
pas. Titre dans les années,
je connais pas.
Dans les années 90.
Shoujo, je connais pas du tout. Déjà que le manga, c'est pas non plus mon strong suit. Là, le shoujo, ça dépasse largement mes compétences. Mais mine de rien, un mois d'avril, qui certes en comics n'était peut-être pas très riche, mais putain, pour le reste, il y avait de quoi se mettre sous la dent, hein.
Et quand tu dis qu'aujourd'hui c'est 14 000 fois pire,
est-ce qu'il y a le temps de faire un petit rétro What's Up ou c'est vraiment trop tard?
Ah bah vas-y, rapidement.
Rapidement, ouais, ouais. Parce que en ce mois d'avril 98, moi j'ai eu un truc qui m'a fait bien plaisir à l'époque, c'est que mes parents se sont abonnés à CanalSat.
J'ai cru qu'il allait dire mes parents ont divorcé, c'est un truc horrible, un truc sale. C'est... Mes parents ont divorcé, je double le cadeau.
non, abonné à CanalSat et alors donc pour la petite histoire, enfin pour rappel historique, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait, c'était un petit peu la guéguerre entre CanalSat et TPS. Il y avait.
Oui, ça remonte à loin.
Qui se souvient de TPS?
Voilà, c'est ça. C'était soit l'un soit l'autre. Et ils avaient opté pour CanalSat, sans doute pour avoir Canal+ aussi en même temps. Bon, enfin bref, j'en sais rien. Pour la petite histoire, il se trouve que à l'époque c'était parabole satellite, machin, etc. Mmh. Et ma chambre était en dessous du toit. Et pour que ça capte mieux, eh ben en fait le mec qui avait installé dans ma chambre CanalSat. Et mes parents en fait mataient avec un relais.
Ouais, donc t'avais le démodulateur dans ta chambre, quoi.
Et voilà, c'est ça. J'avais le décodeur, enfin le l'appareil dans ma chambre, et du coup, bah j'étais super content parce que c'était la grosse promo. J'avais quoi, 13 ans, c'est ça. Attends.
Bah t'es de 83, donc oui, 13.
14, enfin ouais, 14 ans quoi, ouais, en fait. Pardon. Voilà. 14 ans et ça faisait que quelques mois que j'avais la télé dans ma chambre parce que oui, mes parents m'avaient pas laissé avoir la télé dans ma chambre.
Moi, je l'avais pas moi non plus. Hein.
Avant cet âge-là.
Mmh. Donc tu es passé de pas de télé à toutes les chaînes de télé.
Et voilà. Et alors du coup, CanalSat est grosse claque parce que ça semble ridicule maintenant. C'est tellement habituel d'avoir 150 000 chaînes de télé. Mais à l'époque, j'étais rentré un week-end parce qu'en plus j'étais en pension et donc la télé c'était vraiment une denrée rare puisqu'on n'avait pas de télé hein, là-bas. Donc je ne pouvais regarder la télé que le week-end et donc là je rentre et non seulement j'ai la télé dans ma chambre mais en plus j'ai 150 000 chaînes. Et
t'as failli mourir.
Tu passes le week-end à juste faire le repérage des chaînes, quoi.
Mais c'est ça. Mais le pied intégral que j'ai eu. Alors,
m'a fait pareil quand mon père a pris le câble aussi. Enfin, le satellite, pardon. Il avait pris CanalSat aussi. Et, putain, la première fois où tu te retrouves avec 300 chaînes, tu fais waouh. Bon, il y en a quelques-unes.
Mais il y a plein de petits trucs comme ça que je trouvais extraordinaire. C'était les États-Unis dans ma chambre, quoi. C'était le mur de chaînes. Celui qu'on aperçoit dans Retour vers le futur 2.
C'est ça. Mais c'est ça.
Je l'avais chez moi dans ma chambre. Donc j'étais comme un ouf, quoi. Tu vois, c'était ne serait-ce que ça, je pouvais rester devant plusieurs minutes.
Un bond dans le futur, quoi.
Mais c'est ça. Mais c'est ça paraît dérisoire maintenant parce que maintenant c'est un truc quotidien. Enfin, on s'en fout. Mais à l'époque, c'était ouf.
Et attends, on voyait ça encore avec nos yeux d'enfant. Enfin, certes, on était ados, mais c'était nos yeux d'enfant. On a été bercés à des Retours vers le futur, etc. Pour nous, c'est le rêve, quoi.
Voilà. Et il y avait les chaînes kiosques. Et alors je sais pas si ça existe toujours sur CanalSat, les chaînes kiosques c'était le cinéma à la carte. Et t'avais des films, ça aussi, maintenant ça semble dérisoire avec le téléchargement etc, mais voir des films qui un an après sont disponibles à la carte à la télé, payables voilà, à l'unité comme ça.
Oui, ça fait bien rire aujourd'hui.
Maintenant, bon bah on s'en fout, mais à l'époque, c'est
déjà
pareil,
un an, on te dit... C'est non, vrai mais, ça paraît incroyable, hein. Qu'on ait accepté d'attendre aussi longtemps à chaque fois.
Ouais, mais pourtant, à l'époque, c'était même quelquefois avant les sorties en VHS. et voilà, enfin, c'était, moi, je trouvais ça incroyable, quoi. C'était,
quand tu les as ratés au ciné, ouais, puis c'est le moyen de pouvoir les voir chez toi.
Et alors, comme tu dis, Steve, découverte de plusieurs chaînes, Fox Kids. Très très bonne chaîne à l'époque, Fox Kids, sur laquelle justement il y avait des mangas et des dessins animés comme les X-Men. Ouais.
Ça appartenait à Fox.
Les Power Rangers. Alors à l'époque c'était ils rediffusaient les Neo, je crois, la seconde série. Enfin voilà quoi, avant les turbos, avant que ça devienne vraiment n'importe quoi irregardable.
Mais pourquoi tu dis ça? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça.
Non, mais ouais. Je ne sais pas.
Attends, je suis en train de te rechercher le dernier nom, le nom de la dernière série Power Rangers. Quand je suis tombé dessus l'autre fois, j'étais, mais j'en pouvais plus.
Il y en a eu, il y en a eu une trentaine, je crois, maintenant.
Ah oui, non, mais c'est que la dernière en date, c'est à mourir de rire, quoi. Putain, j'essaie. Ah oui, non, bah voilà, il y en a une nouvelle qui est prévue pour 2019, mais celle de 2018, c'est quand même Super Ninja Steel. Power Rangers Super Ninja Steel.
Ouais.
Juste
ouais,
le nom, quoi. Le nom te donne envie de le regarder, quoi.
Et on vous renvoie à l'écoute du Comicity Universe Power Rangers avec Jonath qui nous avait récité par cœur la liste des différentes séries Power Rangers. Je ne sais plus jusqu'à quelle année, quelle saison il était arrivé, mais c'était impressionnant.
Là, la prochaine voilà, s'appelle, c'est déjà acté, ça s'appellera Beast Morphers.
Ouais.
Rien que là, ça claque aussi, quoi.
Et alors pour en terminer avec ce WhatsApp qui est déjà trop long, enfin voilà quoi, découverte aussi des chaînes, des chaînes étrangères, enfin même le fait d'avoir des chaînes allemandes, etc. T'avais l'impression d'être à l'hôtel, quoi. Enfin c'était fou de voir.
Qu'est-ce que les cheveux font dans ma télé?
C'est l'hôtel dans ta chambre. Après t'appelles, fait, hey maman, je veux un jus de fruits.
Non mais
room service.
Très franchement, ça donnait l'impression d'être en vacances, quoi. C'était fou, quoi.
Je comprends.
C'était fou d'avoir ça et Canal Jimmy, Canal J, enfin ce genre de chaîne qui n'existe plus. 13e rue. Alors je sais pas si ça existe encore,
plus.
Mais
fermé.
Et franchement, il y avait en plus de très, très bonnes chaînes.
Pas longtemps. Non, je crois que 13e rue c'est conclu. Hein.
Et surtout, il y avait une expérience quand même le premier samedi du mois. Le premier samedi du mois, hein, puisque voilà, je me retrouvais avec Canal 7 dans ma chambre et ben, ce sera le fruit pour une anecdote quand on arrivera au numéro de juillet. Voilà.
Ah non, 13e rue existe toujours. C'est ça, la chaîne Sci-Fi qui n'existe plus.
Ah d'accord.
Alors je sais plus. Il y a une chaîne qui s'est arrêtée il y a pas longtemps.
C'est No Life.
Ouais, non, mais il y a quelques mois déjà.
Alors pour la petite histoire, No Life s'est arrêté d'émettre aujourd'hui. J'ai assisté à l'arrêt définitif. C'est-à-dire qu'il y avait des rediffusions là pendant quelques jours de ces 11 dernières années puisque ça a été créé il y a 11 ans et ça s'est arrêté je crois vers 16h aujourd'hui quoi.
Voilà. Ouais, c'est ouf. Hein.
J'étais dessus comme par hasard parce qu'il repassait un vieux truc sur le rétro gaming donc ça m'intéressait. Et d'un seul coup mon image s'est frisée, alors j'ai zappé et ensuite quand je suis revenu sur la chaîne, bah le canal n'existe plus. Enfin, le canal n'était plus attribué, quoi. Donc j'ai compris que c'était fini.
Ah, tu savais pas ?
Enfin non, j'ai compris que c'était que la période entre guillemets de voilà quoi, de battement durant lequel ils pouvaient rediffuser des vieux trucs. Bah,
battement, meilleur super héros.
Ouais. Voilà. C'est Batman et qui super héros dans tout le temps.
Récemment créé par Rob Liefeld.
Lequel tu as dit ?
The Pouch. Récemment créé par Rob Liefeld. Oh. Qui va rentrer dans la légende, j'en suis sûr.
Donc enfin bref, non, voilà, bon, pour ce petit rétro WhatsApp et anecdote de la honte pour le numéro de juillet. Voilà, donc
je crois savoir de quoi tu vas parler.
Ouais. Ah, mais...
je crois savoir de quoi tu vas parler.
C'est totalement con.
Oui.
C'est totalement con, mais franchement. Voilà quoi.
Oui,
faudra
en parler, ça faudra en parler, c'est classe. Et bien voilà, c'est tout pour ce putain, on a fait long hein, ce mois-ci, on a fait 1h40 presque.
Ouais,
on essaiera de faire un peu plus court les prochaines fois. Voilà, c'est un petite pastille
temps,
de nostalgie, mais ça nous fait plaisir à nous aussi quoi.
On a parlé limite plus de d'autres choses que de comics, donc c'est cool de sortir un petit peu du carcan comics.
Non mais est-ce que c'était mieux avant ? C'est vrai que vu par ce prisme-là où on garde que le meilleur. Bah oui, c'était mieux avant. On vous a éliminé aussi beaucoup de choses, mais...
Sur le cinéma français, avec trois films quand même, trois bons films en avril 98, peut-être que le cinéma français, c'était peut-être mieux avant. Pour les comédies, les comédies françaises.
Ça a été un summum historique.
Ouais.
Trois bons films, c'est le maximum.
Rappelez-vous que le mois d'avant, on avait parlé quand même des Visiteurs 2, qui certes étaient peut-être moins bons, mais...
Ah ouais, le Visiteur 2, c'est quand même compliqué.
Ouais,
quoi.
Mais...
C'est quand même une merde.
C'était quand même un succès. Mine de rien,
je
le
mettrai
cinéma...
bien sur notre nouveau service vieillemerde.com.
Vieilles merdes qui sont vraiment des merdes. Hein,
ouais. Vieilles merdes qui puent, ouais. tel service vieille merde en or et vieille merde qui pue, quoi. C'est... Non, mais mine de rien, le cinéma français se portait bien à l'époque.
Non, mais le cinéma français a eu une bonne fin de décennie 90.
Et l'année 90.
Bon début de décennie 2000, et puis ça s'est à nouveau cassé la gueule pour aller refaire des films que personne ne voit.
Ouais, l'année 98 pour la France, en tout cas globalement, c'était une année réussie.
Oui, année.
Et on reparlera bien sûr de toutes les sorties du mois de mai, le mois prochain, dans le prochain numéro de Comic City of the Future Past. J'espère que cette émission continue de vous plaire. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur ce que vous souhaiterez voir peut-être, si certaines rubriques vous manquent, vous des idées d'amélioration, etc. On est à l'écoute. On fera au mieux possible. On vous fait des gros bisous nostalgiques évidemment. Et on se dit au mois prochain pour le mois de mai 98. Est-ce qu'on continuera sur la même lancée?
Qui sait?
Eh oui, il y a des choses à dire sur le mois de mai, pardon.
Au mois prochain!
Au mois prochain!
Ciao.
Salut!